Bon, eh bien, bonsoir. Donc, mon nom est Marc Hémès et avec Anne Madelin et Francisca Humphreys, qui malheureusement devait être des nôtres, mais qui, il y a quelques jours, a appris qu'elle devait être en Allemagne pour des affaires liées au programme d'échange franco-allemand. Donc, avec à nous trois, nous organisons régulièrement un enseignement, un cycle de conférences à l'EHESS qui s'intitule Penser en plusieurs langues. Et dans ce cadre, et dans le cadre aussi d'un projet des éditions de l'EHESS, que projet coordonne Anne Madelin aux éditions, nous avons organisé ce soir cette table ronde sur la valeur de la traduction, ou autour de la question de la valeur de la traduction. Cet événement ayant lieu dans le cadre de la Nuit des idées, comme vous le voyez en assez gros sur l'écran, nous remercions le programme en question et l'Institut français qui le parraine et l'organise de par le monde de leur accueil, finalement, au sein de cet événement. Et nous remercions les participantes et participants à la table ronde d'avoir, et merci à vous d'être déjà là pour la participation à la table ronde. Séverine Sofio, qui devait aussi participer, ayant un souci ferroviaire, finalement ne vient pas, elle nous a transmis ses excuses et donc je vous les présente. Donc je vais juste très brièvement introduire à la discussion générale et introduire aussi pour que les participants un peu soient plus familiers. Donc la question, pour cadrer un peu le sujet, le petit texte peut-être... Anne, tu l'as même reproduit, oui, je crois, voilà. Donc je vais vraiment en suivre les éléments. Poser vraiment cette question de parler de valeur de la traduction. Qu'est-ce que cela signifie au plan de la valeur symbolique et de la valeur économique, sachant que nous sommes plus particulièrement intéressés par l'enjeu de cette valeur en matière de traduction en sciences humaines et sociales, suivant l'appellation consacrée. Le petit souci, c'est que nous ne savons pas, nous ne prétendons pas savoir en quoi la traduction en sciences humaines et sociales est spécifique par rapport à un ensemble plus large d'activités de traduction. Donc quand le texte dit plus spécifiquement de la traduction en sciences humaines et sociales, ce plus spécifiquement n'exprime pas un jugement, une décision que nous avons déjà tranchée sur la spécificité de cette traduction en réalité. C'est plus un choix pragmatique, au fond. Et peut-être, même certainement, le profil des personnes ici présentes mettra en évidence ce caractère non tranché de la spécificité d'une traduction par rapport à l'autre. Donc il n'y a pas, a priori, de distinction vraiment forte faite entre la traduction en SHS, pour le dire en abrégé, et la traduction en philosophie, en sciences du langage, en sciences cognitives, en littérature, que sais-je. Bien. Ensuite, le point d'ancrage, c'est le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, disons, avec l'idée que la traduction y serait investie d'une valeur particulière ou que les problèmes de la valeur de la traduction y seraient spécifiques. Là aussi, c'est un sujet qui peut complètement se débattre. La mise à l'écart, la mise à part d'un champ des savants par rapport à un domaine des profanes défini vis-à-vis du monde académique étant bien sûr sujette à débat. Mais en tout cas, on peut dire que s'il y a une question particulière de la valeur de la traduction dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle se poserait par exemple dans deux ordres différents, un ordre qu'on pourrait qualifier de axiologique et un ordre qui serait plutôt de l'ordre de l'économique. L'ordre axiologique, ça serait de dire que les critères de valorisation de la traduction, les valeurs définissant la valeur de la traduction, seraient particulières dans le monde de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique, d'une part. Donc voilà, un ordre du jugement en interne, on utiliserait des valeurs, des critères pour juger de la valeur de la traduction qui seraient particuliers, qui seraient formés suivant certaines structures ou certaines choses spécifiques, certains principes. Et puis, dans l'ordre économique, qui est en même temps un ordre sociologique, éventuellement, on pourrait dire que ce monde-là, le monde académique, serait encastré dans le système des marchandises, mais il serait encastré dans le système des marchandises de façon différente. C'est-à-dire que si vous traduisez, on peut dire ça de manière générale, de l'édition en sciences humaines et sociales ou de l'édition universitaire n'est pas... n'est pas diffusé, n'est pas dans le même système économique que, je ne sais pas moi, la littérature jeunesse ou les romans, les éditeurs qui sont en compétition pour les grands prix littéraires ou et ainsi de suite, y compris sur le marché de la traduction internationale et des cessions de droits à l'international. Donc, hypothèse numéro 2, après l'hypothèse axiologique, l'hypothèse économique, qui consistera à dire que le monde académique en lui-même, pas seulement l'édition, mais le monde académique, échappe au système de la valeur définie principalement en termes de marchandises. Voilà, hypothèse qui se discute là aussi et qui fait l'objet de certains débats aujourd'hui avec, par exemple, le problème des droits d'inscription à l'université et ainsi de suite. Je passe. Donc, dans l'ordre axiologique, on peut partir de l'idée que la reconnaissance du traducteur dépend de la place qu'on accorde à la traduction dans la pratique de la recherche et dans la pratique de l'enseignement, ou bien de la reconnaissance qu'on accorde à la traduction comme pratique de recherche à part entière, comme pratique ayant une valeur scientifique à part entière. Question donc, est-ce que la reconnaissance dont font l'objet les traducteurs dans ce domaine diffère du type de reconnaissance dont font l'objet les chercheurs ou les auteurs dans cet univers. Sur le plan économique et sociologique, l'idée serait de dire que, et c'est même plutôt un constat pour le coup, ce n'est pas une hypothèse, que les enseignants-chercheurs, ce sont des titulaires, enfin, pour la plupart. Ils ont des fonctions qui les titularisent dans le système académique, là où les auteurs de traduction, les traducteurs, sont rarement, en tant que tels, titulaire de fonction dans le système universitaire. Donc il y a des carrières différentes selon qu'on fait de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'enseignant-chercheur ou selon qu'on est traducteur ou traductrice. Voilà. Alors si l'on suppose une certaine pertinence à la notion de champ, par exemple, qu'on connaît par la sociologie de Bourdieu ou par ses héritiers, on pourrait chercher à y placer différents types d'acteurs, les traductrices, traducteurs professionnels, formés à la recherche ou formés à d'autres systèmes de savants, des chercheurs s'adonnant à la traduction, donc des chercheurs titulaires mais pratiquant aussi la traduction à titre parallèle, disons, ou à titre faisant système avec leur pratique de recherche, et puis aussi des collectifs qui s'engageraient dans un travail collaboratif sur le plan de la traduction comme sur le plan de la recherche ou autre. Voilà, donc ça, ce sont les éléments de cadrage un petit peu auxquels nous avons réfléchi pour un premier point sur en quoi, comment nous cherchons à poser cette question de la valeur de la traduction. Le deuxième élément de cadrage, c'est le problème, j'en ai parlé au début, des transformations de l'édition et des effets de ces transformations sur les traductions en sciences humaines notamment. Et là, c'est Anne qui nous en parle tout de suite.
Oui, alors... Pour rebondir ce que tu disais, Marc, ce qu'on constate dans l'édition, c'est de plus en plus une vraie distinction entre l'édition de recherche et l'édition de sciences humaines généralistes. Et cette différence, distinction, elle a tendance à se creuser au fil des années. En 10 ans, on a vu cet écart se creuser. Avec des circuits qui deviennent de plus en plus parallèles, que ce soit pour la diffusion, ou bien pour les auteurs et pour la traduction. Donc, concernant la traduction, on voit de plus en plus dans la recherche donc une différenciation des lieux de financement des traductions, de commanditaires de traduction, qui sont de plus en plus distinctes en fait des maisons d'édition, que ce soit les maisons d'édition privées ou publiques. Hein. Donc, on sait très bien qu'éditer des traductions, ça coûte cher, donc il faut toujours faire un montage, hein, et que souvent, on cherche des aides à droite, à gauche. Mais de plus en plus, ce n'est plus la maison d'édition qui cherche les aides, les trouve, mais les financements de traduction arrivent via des programmes de recherche, que ce soit des LABEX ou des programmes donc les LABEX, c'est des programmes nationaux, hein, ou bien des projets internationaux, voire des chercheurs eux-mêmes sur leur propre financement qui financeraient la traduction. Donc ça pose un certain nombre de questions sur la place de la traduction, sur les systèmes de validation, sur les disciplines où il y aurait plus de traductions financées, et sur la diffusion. L'autre question qui relie certaines hypothèses déjà mentionnées, c'est celle de l'internationalisation de la recherche et ses conséquences dans l'édition. Donc, on aurait l'intuition spontanément que plus on internationalise la recherche, plus on traduit, hein, et plus on sait qu'il est nécessaire de traduire, d'importer des idées, des textes venant d'ailleurs, et aussi de faire traduire sa propre production. Donc il y a plus de circulation de textes. Alors ça, c'est bien sûr en général. En fait, en pratique, c'est beaucoup plus complexe. Il n'est pas prouvé qu'il y a plus de traductions aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. En tout cas, les chiffres ne le montrent pas. Par contre, ce qui a augmenté, c'est des formes de traduction qu'on peut dire d'exportation, c'est-à-dire des structures, que ce soit des revues, des éditeurs, voire des auteurs, qui décident de faire traduire leur propre texte pour le diffuser ailleurs. Donc ce n'est plus une maison d'édition ou une revue qui fait traduire pour introduire un texte, mais en fait dans un processus d'exportation. Alors, ça se produit en France massivement vers l'anglais, mais ces processus, ils peuvent exister aussi vers le français, hein, qui reste une langue de circulation des sciences humaines assez importante. La question du sentiment qu'il est nécessaire de traduire les sciences humaines en milieu universitaire, il dépend beaucoup de la place de la langue, de circulation dans ce pays. Et il est intéressant de sortir un peu des frontières et de voir comment cette question de la traduction se pose dans d'autres contextes linguistiques et du coup comment se pose le statut du traducteur de sciences humaines dans des milieux, dans des aires linguistiques ou géographiques différentes. Je pense aux pays d'Europe centrale et orientale, par exemple, où le rôle du traducteur est beaucoup plus important symboliquement, hein, c'est souvent quelqu'un qui fait de la recherche, et en tant que importateur de théories venant d'ailleurs, il a un vrai rôle de médiateur tout à fait reconnu. Donc ça, c'est intéressant de penser la question de la traduction en France par rapport à l'hégémonie des sciences humaines françaises pendant des années. Et on est peut-être en train de sortir de cette ère-là, donc forcément, ça a des conséquences sur la place de la traduction. La question des outils dont on discutera bien sûr, les outils de traduction et les possibilités aujourd'hui beaucoup plus grandes d'aide d'un certain nombre de logiciels, et cette question de la traduction automatique des langues qui devient une vraie aide pour le traducteur et pour le chercheur. Donc quelle est sa place aujourd'hui dans la traduction de la recherche ? On en discutera. Je voudrais juste signaler, donc, pour tous ceux que ça intéresse, les questions de jonction entre la recherche et l'édition. On aura au mois de juin, donc les 17 et 18 juin prochains, les états généraux de l'édition de sciences humaines qui seront organisés à l'EHESS, où nous reviendrons sur un certain nombre de problématiques plus générales du rapport de l'édition à la recherche aujourd'hui. Voilà. Et je vous rappelle aussi que cette séance est enregistrée, hein, donc vous pourrez retrouver nos débats sur le site Penser en langue, et on vous enverra, à ceux qui le souhaitent, le lien. D'ailleurs, on va faire passer une feuille d'inscription pour que vous puissiez indiquer vos coordonnées. Donc on a un peu posé les termes de notre discussion. Donc on a décidé de vous proposer trois thèmes. Je vais repasser la parole à Marc pour nous resituer les trois thèmes qu'on a proposés à nos intervenants.
Qui sont ceux qui, je crois, sont lisibles dans le texte, oui. Sauf si je mélange plusieurs versions qu'on avait faites. Effectivement, comme chemin de fer de la séance. Alors, je préviens tout de suite qu'il y aura un point numéro zéro qui sera une question préalable permettant aussi aux intervenantes ou aux intervenants de se présenter eux-mêmes, c'est-à-dire de répondre à une question d'échauffement de type de quoi et d'où voulez-vous parler ce soir ? Parce que finalement, nous, on a nos raisons que je vais détailler de les avoir invités, mais eux, ils ont leurs raisons d'être venus et ce n'est pas forcément les mêmes. Donc ça serait une manière de s'échauffer. Et ensuite, on en viendra au chemin de fer avec les trois points. Ces trois points se rejoignent autour de la question, pas seulement de la valeur, mais aussi du travail du traducteur, finalement, comme point un peu carrefour entre toutes les lignes de réflexion qu'on a développées depuis tout à l'heure. Travail qui serait conçu à la fois du point de vue de la question de la détermination de la juste rémunération, une question assez classique de l'économie, et en même temps, quant à la mesure de son efficacité, ou même, osons le mot, de sa productivité. Les deux étant toujours assez liés, mais le mot productivité pourrait s'entendre dans un sens plus symbolique, dans le sens de la créativité aussi. Donc la feuille de route en trois points, c'était de parler, de s'interroger sur la présence ou non d'un certain marché ou de plusieurs marchés de la traduction dans le milieu universitaire. On retourne un peu la question de l'encastrement dont je parlais tout à l'heure. La deuxième question étant celle du statut du traducteur en tant que travailleur. Et la troisième, liée à la question plus de la contribution de la traduction à l'ordre des savoirs et de la contribution épistémologique de la traduction aux sciences en général, autour de la question de la traduction comme recherche ou pas, l'inclusion ou pas du champ de la traduction dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche. Voilà pour le chemin de fer, qui résume un peu pourquoi nous avons invité les quatre personnes présentes ce soir, et aussi nous avions invité Séverine Sofio, absente ce soir. Je vais un petit peu les présenter à plusieurs titres. D'abord à titre professionnel, ensuite à titre que j'appellerais intellectuel, et enfin du point de vue d'un problème sur lequel je reviendrai après, que je vais pas annoncer tout de suite. Donc, on peut dire que vous êtes effectivement à trois titres des travailleurs et des travailleuses de la traduction. D'abord professionnellement, au sens où Lucie Garnier, donc vous êtes traductrice en même temps que vous êtes chercheuse, puisque vous êtes l'auteur d'une thèse à l'Université d'Oxford sur l'œuvre de Stendhal, et vous travaillez encore aujourd'hui d'un point de vue de chercheur sur la traductologie et sur la traduction de Stendhal, y compris en collaboration avec Francesco Manzini, qui enseigne le français à l'Université d'Oxford. Professionnellement parlant, toujours Olivier Manoni, vous êtes journaliste en plus d'être traducteur, à moins que ce soit l'inverse, ça c'est à vous de nous dire. Thierry Poibeau, vous êtes chercheur titulaire au Centre national de la recherche scientifique. Catherine Soissel, vous êtes traductrice et, devrais-je aussi dire, chercheuse, puisque vous avez écrit une thèse à Sciences Po Paris qu'on pourrait qualifié d'une sorte de sociologie politique comparée, puisque cette thèse portait sur les liens entre la socialisation enfantine et ce que vous appelez le nationalisme banal. C'est comparé parce que c'est en France et en Angleterre. Donc, il y a quelques années de cela, en 2012. Sur le plan maintenant que j'appellerais intellectuel, vous êtes traducteur à titre intellectuel à différents titres, en fait. Lucie Garnier, vous traduisez pour l'essentiel dans le domaine universitaire, c'est comme ça en tout cas que vous le présentez vous-même, mais ce domaine universitaire inclut aussi bien les SHS, les sciences humaines, que les lettres ou les arts, ou des domaines de technologie de l'information et de la communication. Mais, je l'ai dit tout à l'heure avec Stendhal par exemple, vous êtes aussi actif dans le domaine de la traduction littéraire. Donc, double niveau à ce titre. Olivier Manoni, vous êtes principalement traducteur littéraire et philosophique. On peut citer Freud, Sloterdijk ou Stefan Zweig parmi la myriade d'auteurs dont vous avez traduit des œuvres. Thierry Poibeau, vous êtes informaticien et linguiste, directeur du laboratoire qui s'appelle Langue, Texte, Traitement Informatique, Cognition, qui associe plusieurs institutions de recherche à Paris ou en France. Et votre domaine est ce qu'on appelle le traitement automatique du langage, le TAL pour les initiés, ou le Natural Language Processing en anglais. Il faut aussi utiliser, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la traduction du traitement automatique du langage, Natural Language Processing. Ça c'est ce que j'appelais la situation intellectuelle ou En termes universitaires, on dirait la situation disciplinaire, vous voyez. C'est-à-dire dans quel domaine du savoir vous vous situez de manière prioritaire en tant que traducteur ou en tant que travaillant en vous impliquant sur la traduction. Et le dernier point que je voulais aborder pour vous présenter, c'est vos manières d'inscrire la traduction dans un espace public, je pourrais dire. Pour ça, disons, pour Lucie Garnier et Catherine Schlossel, que vous êtes membre de l'Association des traducteurs et éditeurs en sciences humaines, vous avez des petites étiquettes même, donc, qu'on appelle l'ATES. Cette association se donnant pour rôle de constituer, comme le dit sa présentation, une communauté de professionnels de la traduction et de l'édition en sciences humaines et sociales. Sachant qu'il faut préciser que vous travaillez aussi bien sur la traduction que sur la correction et la réécriture, qui sont des domaines connexes, mais pas forcément exactement superposables. Et puis, vous vous donnez une mission de professionnalisation des métiers de la traduction dans le domaine des SHS. Donc, une forme d'inscription dans un certain espace public. Olivier Manoni, vous avez été le président de l'Association des traducteurs littéraires de France entre 2007 et 2012. Et actuellement, vous êtes le directeur pédagogique, plus précisément, de l'école de traduction littéraire, école qui a été créée en 2012, et vous êtes son directeur pédagogique depuis lors. Et cette école fonctionne depuis un peu plus récemment en partenariat entre le Centre national du livre et une association qui a pour nom Association pour la formation et le perfectionnement professionnel dans les métiers de l'édition. Donc on voit par là différentes inscriptions dans l'espace public avec des missions à la fois de professionnalisation, qui inclut un volet juridique fort, puisque je n'ai pas précisé que l'Association des traducteurs littéraires de France a une mission essentielle qui est de faire appliquer le code de la propriété intellectuelle, pour le résumer de manière très grossière, donc pour faire concrétiser dans la pratique, pas dans le monde de l'édition, au niveau des pouvoirs publics, ce que dit le code de la propriété intellectuelle, à savoir que les droits moraux et patrimoniaux des traducteurs sont les mêmes que ceux des auteurs en termes de création. Voilà. Et enfin, Thierry Poibeau, vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru en anglais aux presses du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, en 2017, sobrement intitulé « Machine Translation », donc la... traduire ce titre est un défi en soi. Mais en tout cas, on peut dire que ce livre, qu'il est un précis adressé aux novices comme votre serviteur, un précis qui fait le point sur l'histoire de la traduction automatique et sur les différentes approches qui ont été exploitées au cours des dernières décennies et jusqu'à aujourd'hui, les nouvelles approches plus récentes. Sans oublier dans ce livre d'aborder certaines difficultés ou certains défis auxquels on se heurte toujours, et sans oublier de traiter de l'emprise qu'exercent certains acteurs industriels, on peut citer Google, Sistran par exemple, dans le secteur, dans les orientations éventuelles de la recherche en traduction automatique et en traitement automatique des langues plus généralement, puisque les deux sont quand même très liés l'un à l'autre, si j'ai bien compris. Voilà, c'est comme ça, disons, qu'on peut éclairer les raisons qui ont fait que nous vous avons invité. Désolé, c'est un peu long, hein, mais on a beaucoup cogité quand même entre nous. Et avant de commencer la discussion sur les trois points qu'on a annoncés, du coup, j'aimerais que nous prenions le temps d'un échange sur ce pourquoi nous vous avons invité et pourquoi vous avez accepté de venir. Donc, moi, je n'ai pas été exhaustif dans ma présentation, bien qu'elle soit fort longue. Mais je pense que vous avez vous-même éventuellement des choses à dire sur la place que vous occupez, les différentes casquettes que que vous allez vous donner ce soir, parce que vous allez peut-être répondre à certaines questions en n'utilisant pas toujours la même casquette. Voilà, donc en substance, pourquoi avez-vous accepté de venir ? Là, je pense qu'on peut appliquer un principe de pur tour de table ou de pure proximité, en commençant par
Merci. Alors moi, je trouvais ça intéressant de venir ce soir parce que moi, je tombe typiquement dans le cas des traducteurs professionnels formés par la recherche, parce que comme a dit Marc, je viens d'un parcours de recherche classique en sciences politiques, sociologie politique. Mais à la fin de ma thèse, je me suis dit que j'étais plus attirée par le monde de la traduction finalement, parce que ça me présentait d'autres défis, d'autres enjeux. Et intellectuellement stimulant. Donc je suis partie de là-dedans. Mais le fait de venir du monde de la recherche et de ne pas avoir été dans mes sphères de traduction auparavant me posait tout un ensemble de difficultés, justement, qui concernent en fait cette idée de marché qu'on sent mais qu'on voit pas forcément très bien, très clairement en tant que traducteur indépendant. Et du coup, je trouvais que c'était peut-être intéressant de venir parler de mon expérience simplement en tant que traducteur indépendant d'un côté, et puis aussi avec la casquette de co-présidente, co-fondatrice de cette nouvelle association de traducteurs qui a pour vocation de fédérer des gens qui sont professionnels et qui travaillent spécifiquement dans le monde du SHS, parce qu'on nous dit souvent que c'est difficile de trouver des traducteurs qui sont compétents, qui sont fiables, qui ont la culture générale nécessaire et la compétence linguistique qui va avec pour pouvoir faire ce genre de traduction. Or, ça existe. Des gens qui sont spécialisés, qui réunissent ces différentes compétences. Donc, voilà, c'est une association qui cherche à réunir des gens comme ça pour qu'on soit plus visible. Et aussi que nous, on a une meilleure visibilité aussi de ce qui se passe sur le marché. Donc voilà, ce soir, je pense que je porte ces deux casquettes-là.
C'est une question compliquée, en fait, que vous posez, parce que pourquoi est-ce qu'on vient il est attirant pour quelqu'un qui n'est pas du sérail, ce qui est mon cas, de venir se frotter un petit peu avec des réalités auxquelles on est confronté. La première réalité qu'on a quand on est traducteur littéraire professionnel, c'est qu'il y a un moment, on le sait, et quand on ne le sait pas, on l'apprend très vite, où on se heurte à une frontière, qui est celle dont vous venez de parler, c'est-à-dire celle de la compétence sur un sujet précis. Quand on aborde quelque chose pour laquelle on n'a vraiment aucune compétence, même le meilleur traducteur est pratiquement certain de se casser la figure. À l'inverse, je défends dans tout le travail que je fais, en particulier sur Freud, par exemple, l'idée qu'une connaissance purement technique, si elle n'est pas accompagnée d'un véritable savoir de ce qu'est le travail de traduction, je ne parle pas de traductologie, je parle de savoir de ce qu'est la pratique de la traduction, est vouée à l'échec. Donc je pense qu'on reparlera de Freud ce soir, mais c'est vraiment un cas d'école. De ce qu'on fait, je parle très, très spécifiquement de la tentative, selon moi, ratée, on va être gentil, qu'ont mené les presses universitaires de France avec l'édition intégrale des œuvres de Freud et une approche qui se voulait scientifique et qui est passée à côté de choses essentielles que des vrais traducteurs leur auraient dit très facilement. Et donc, d'abord, la limite est floue, cette frontière, elle est extrêmement floue. Vous avez dit, j'ai traduit Sloterdijk, j'ai traduit Freud, j'ai fait pas mal de traductions aussi pour les éditions de la Maison de la Science de l'Homme, où là, j'étais plutôt dans ce domaine-là. Et j'ai en ce moment une expérience, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait beaucoup, qui dure depuis beaucoup trop longtemps, mais qui est passionnante, avec l'opuscule de Hitler, Mein Kampf. Je suis au travail dessus, on arrive maintenant au bout, avec une équipe dirigée par Florent Braillard, qui est de cette maison, et une équipe d'universitaires. Et notre échange consiste précisément à produire une traduction qui réponde à leurs critères, qui ne sont pas des critères linguistiques, mais des critères d'historien, et qui soient compatibles avec mon propre travail. Voilà, c'est un vrai problème qui est pour moi absolument passionnant et qui m'a permis justement d'aller dans ces eaux-là avec des confrontations très amicales, mais des vraies confrontations de langage, où est-ce qu'on va, à quel moment on s'arrête sur tel et tel domaine. Voilà.
Moi aujourd'hui je suis là pour parler de casquette avec la casquette de traductrice en SHS principalement vers l'anglais. La traduction littéraire dans laquelle je suis engagée comme une sorte de reste, on va dire, quelque part de mon activité de chercheuse d'il y a une dizaine d'années sur Stendhal, est quelque chose qui est un projet à plus long cours et qui n'est pas forcément dans les médias, et c'est certainement pas ça qui est mon activité principale professionnelle, on va dire. Je traduis essentiellement vers l'anglais, peut-être 10% vers le français, mais aujourd'hui je parlerai plutôt de l'anglais parce que précisément quand j'ai commencé il y a peut-être 2 ans maintenant à vouloir réfléchir de manière un peu plus critique à mon activité professionnelle, je me suis tournée en premier vers les études, les translation studies, tout ce qui peut être traductologie, et il m'a semblé qu'il y avait vraiment un manque quelque part dans ce cadre théorique par rapport aux SHS, mais aussi par rapport à tout ce qui pourrait être pratique, parce qu'on avait tendance à diviser entre la traduction littéraire, Il y avait beaucoup de théories qui parlaient de ça, et de l'autre côté, un cadre théorique qui parle de la traduction technique, ce qu'on appellerait scientifique, et que, quelque part, il n'y avait rien des deux côtés qui rendait réellement compte des spécificités de mon activité. Et plus j'ai creusé, plus finalement le cadre théorique qui m'a parlé, c'était celui de ce qu'on appelle en anglais le Global Academic Publishing, donc tous les travaux sur la mondialisation des publications universitaires. Et toute cette réflexion-là sur les rapports de force qu'il peut y avoir entre différents pays, différentes langues, font qu'une partie de ma réflexion actuelle est assez axée autour de cette question de marché, justement. Je n'avais pas du tout commencé en partant dans cette direction-là, mais finalement, toute la réflexion que j'avais sur les contraintes qui pouvaient peser sur mon activité était quelque part liée à ces questions pragmatiques de marché. Donc c'est une thématique qui m'intéresse à la fois d'un côté très pratique par rapport à ce que c'est que le quotidien dans ce métier, mais aussi dans ce que ça peut dire de la traduction et de ce que ça peut dire aussi sur les SHS et sur la recherche.
Donc, bonjour à tous. Donc, pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on est venu, je me suis posé moi-même la question hier en me demandant pas pourquoi j'y vais, parce que j'étais invité et c'était sympathique, mais en fait je viens, donc pour dire un peu d'où je viens, donc je suis spécialiste de traitement automatique des langues, éventuellement de linguistique. Donc pour les informaticiens je suis un linguiste et pour les linguistes je suis un informaticien, mais on est en gros entre les deux. Et j'ai écrit, le paradoxe c'est que je ne travaille pas spécialement sur la traduction automatique dans le cadre de mes recherches, mais dans ce que je fais depuis plusieurs années, j'ai une réflexion sur ce qu'apporte, je sais pourquoi on fait du TAL, parce qu'il y a un marché derrière, et il y a des applications intéressantes, mais surtout ce qui m'intéressait, c'est en quoi le TAL, donc le traitement automatique des langues, est-ce que le traitement automatique des langues nous apporte quelque chose sur la connaissance du langage lui-même. Donc c'était une démarche un peu plus épistémologique sur le domaine, et la traduction automatique étant l'application phare du traitement automatique des langues, ça m'a semblé intéressant, notamment pour voir quelle est la place de la sémantique dans le traitement automatique des langues. Donc des choses qui sont très loin du marché et de tout ce qu'on peut dire ici. Et donc dans le livre que j'ai fait en anglais, donc il y a un chapitre sur le marché de la traduction automatique dans lequel il n'est pas du tout question d'édition, parce que ce sont quand même deux mondes qui sont très éloignés, enfin qui sont relativement éloignés, dans la mesure où je pense que, surtout à cette tribune, tout le monde vous dira qu'un système de traduction automatique ne peut pas traduire un livre automatiquement. Donc le livre est paru je l'ai écrit il y a 4 ans, et je l'ai envoyé à toutes les maisons d'édition qui avaient pignon sur rue pour qu'il soit diffusé, avec l'espoir qu'il y ait un prix relativement modique pour que les étudiants puissent l'acheter. Et en fait, il n'y a pas de marché pour ça en France, enfin c'est ce qu'on m'a dit, soit parce que c'est trop technique pour les 3/4 des maisons d'édition où je l'avais envoyé, ou pas assez pour les autres à qui je l'ai envoyé. Donc je l'ai réécrit en anglais, enfin j'ai écrit quelques chapitres en anglais, donc c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de publier en anglais. Mais depuis, donc, une maison d'édition, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est Odile Jacob va le publier il va y avoir une traduction dans les 2-3 mois qui doit sortir. Et depuis, en fait, il y a eu, en fin d'année dernière, des articles de presse sur je pense qu'il y a des boîtes américaines ou anglaises qui l'ont fait, mais je pense que c'était en français, pour une traduction vers le français, une entreprise un peu inconnue au bataillon, donc une petite start-up qui a dit on a fait le premier livre traduit entièrement en français qu'on met sur le marché. Alors je ne sais pas ce qui est devenu, je pense que c'était plus un coup de pub j'ai pas vu la qualité du livre, je ne sais pas comment ils font, mais c'est vrai que ce que j'ai vu depuis, c'est que ça intéresse quand même beaucoup les maisons d'édition pour qu'ils se posent des questions sur, alors peut-être généralistes, je ne parle pas des maisons d'édition en sciences humaines qui sont peut-être pour lesquelles les besoins et les outils sont différents, mais qui s'intéressent beaucoup à ça. Donc moi-même, je ne suis pas engagé là-dedans, parce que je n'ai pas de système à défendre, ni rien, mais je m'intéresse vraiment à la traduction automatique en tant que domaine de recherche et en tant que domaine aussi industriel, économique, qui peut apporter des choses. Et toute la question, c'est qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un système automatique qui fonctionne relativement bien à un certain niveau pour une approche généraliste, qui peut même traduire des livres généralistes qui peuvent donner une idée du contenu, mais à mon avis, pas pour faire une traduction littéraire. Donc toute la question se pose de savoir est-ce que ça peut apporter quelque chose à l'édition. Et je ne suis pas du tout un expert de cette approche-là, sachant qu'il y a en gros, il y a plein d'outils, mais il y a ce que tout le monde doit connaître ici, les mémoires de traduction qui permettent d'avoir des traductions de groupes de mots, et la traduction qui fournit directement une traduction de phrase entière ou même d'un texte entier, Et c'est pas évident que si on veut être efficace, même sur de la traduction technique qui utilise déjà une mémoire de traduction, est-ce que la traduction automatique va vraiment apporter quelque chose par rapport à des outils qui sont plus spécialisés pour des traducteurs? C'est pas dit, mais donc c'est ça qui m'intéresse. Mais on est, je pense, assez éloigné, enfin, je préviens tout de suite, de la traduction littéraire et même scientifique, dans la mesure où c'est quand même deux mondes relativement éloignés encore à l'heure actuelle, je pense.
Merci beaucoup. Alors certes, on est éloigné, mais disons quand même, je n'ai pas le descriptif précis sous les yeux, donc je vais sans doute déformer l'information, mais que, à ma connaissance, récemment, un appel à candidature a été diffusé par, est-ce que c'est Open Edition ou directement le ministère de la Recherche, pour lancer des expérimentations en matière de traduction automatique auprès des revues du secteur des sciences humaines et sociales. On est quand même dans une certaine progression de l'intérêt pour la chose qui va au-delà d'un domaine précis. Voilà.
Oui, donc effectivement, on va tout de suite embrayer sur la question du marché ou des marchés. Alors, on l'a entendu au sens assez large, en fait. Hein, on ne tient pas à avoir une discussion très économique. C'est plutôt essayer de voir avec vous, est-ce que se dessine un écosystème particulier, en fait, de la traduction en milieu universitaire, et quels sont ses liens avec l'édition généraliste ou pas, dans quel domaine ou pas il y en a. Et donc, s'il y a un écosystème qui concerne plus particulièrement la recherche, comment fonctionne, en fait, la question du économique, du financement, où sont les nouveaux lieux de pouvoir, s'il y en a. Éventuellement, est-ce que vous avez connaissance de fonctionnement type marché public, hein, puisque nous, pour des tas de dépenses, on doit utiliser les marchés publics. Est-ce que ça ferait sens pour la traduction, hein? Je pense que c'est pas inutile de se poser la question, parce que sinon d'autres vont nous l'imposer, dirais-je, et on n'en est pas très loin. La question du TAL, quand même, ça peut être, donc, du traitement automatique du langage, ça peut arriver quand même, ça peut être perçu comme une menace par certains acteurs, ou bien comme effectivement une chance de supprimer des coûts, et donc d'avoir une traduction à meilleur coût, y compris de choses peut-être plus mécaniques, type les abstracts, les mots-clés, des choses dont on a de plus en plus besoin, en fait, dans l'édition électronique, y compris dans la recherche. Quelles sont aussi la place entre acteurs privés et acteurs publics, puisque le traducteur en tant qu'éventuellement travailleur indépendant, mais on a aussi bien sûr des acteurs qui peuvent être mi-public, mi-privé. Je pense au portail de revue, par exemple. Donc voilà, donc il y a tout un système qui se met en place. Donc je pense que je vais passer d'abord la parole à Lucie, qui a déclaré sa volonté, qui est venue pour ça, en fait, pour parler du marché. Donc Lucie.
Oui, donc comme je laissais entendre tout à l'heure, quand on traduit du français vers l'anglais, dans ce milieu, on devient forcément conscient, non seulement de l'existence d'un marché de la traduction, mais aussi de la mesure dans laquelle ce marché est adossé à ce qu'on pourrait appeler le marché de la recherche, qui est lui-même imbriqué dans des rapports de force entre langue et pays. Et à ce sujet, il me semble qu'il y a un premier point qui est intéressant à aborder et qui est souvent occulté quand on réfléchit à ces questions-là. Et c'est déjà le rôle structurel joué par la traduction en amont, en fait, dans la constitution des fonds qui régissent ce qu'on pourrait appeler ce marché de la recherche, dans la mesure où on parle souvent du coût de la traduction, en termes économiques, et de ce que la traduction peut produire en termes plus abstraits et non marchands, pour le coup, la diffusion de savoir, l'échange intellectuel, même la visibilité. Mais il ne faut pas oublier que dans le paysage actuel en France, beaucoup des fonds qui financent l'activité même de la recherche passent par de la traduction de projets de financement. La plupart l'Agence nationale de recherche en France maintenant encourage fortement à ce que les demandes de subventions soient rendues en anglais. L'Institut universitaire de France, c'est obligatoire. Donc, dans un premier temps, il y a une étape de traduction. C'est pareil pour les LabEx aussi, d'ailleurs, le LabEx Step 6, dont j'imagine que pas mal de gens ici à l'EHSS en ont entendu parler. Tout ce projet-là a dû être traduit. J'ai fait partie de l'équipe de traducteurs, je crois que c'était en 2010, qui ont traduit ce projet. Donc, et tous ces projets-là, tous ces financements, servent en partie à financer derrière des traductions. Ça fait partie de... Donc, il y a déjà ce circuit-là. Et ça reflète pourquoi est-ce qu'on traduit des projets de recherche en France, pourquoi est-ce qu'on les traduit en anglais. C'est dans une volonté d'afficher une internationalisation de la recherche, de faire appel à des experts internationaux, ce qui peut donner lieu d'ailleurs à des choses relativement absurdes, dans le sens où j'ai déjà traduit un projet IUF pour un spécialiste de la littérature argentine en anglais. On peut imaginer que la langue internationale dans ce domaine ne serait pas l'anglais. Et ça montre dans quelle mesure il y a vraiment une tendance à établir une sorte d'équation entre international égale langue anglaise. Et ce rapport de force est une des choses qui régit réellement ce marché-là. Donc il faut déjà savoir que la traduction est une étape nécessaire pour produire l'argent, pour faire tourner le marché de la recherche. Ce qui, après, met le doigt sur un élément un peu déplaisant dans la manière dont peut fonctionner ce marché de la recherche, qui est qu'il faut devait avoir accès à de l'argent pour en obtenir. J'ai déjà eu des jeunes chercheurs qui ont financé de leur poche des traductions de dossiers, car ils n'avaient pas encore le statut au sein de leur labo qui leur permettrait d'accéder à ce type de financement pour pouvoir faire la demande. Et donc c'est un système qui s'auto-entretient et qui est le résultat donc, de l'injonction croissante à publier en anglais, parce que ce sont les revues anglo-saxonnes qui ont les impact factors les plus élevés, ce qui, ça a été démontré par beaucoup de recherches, découle directement des rapports économiques, en fait, etc. Donc, après, je pense que la traduction met aussi le doigt sur un autre élément intéressant, qui est qu'on a tendance à dissocier dans le monde de la recherche, dissocier le travail de la rémunération. C'est aussi un des remparts contre la marchandisation du savoir, on va dire, et c'est ce qui permet aussi à la recherche d'être en partie indépendante. C'est un peu la raison d'être de tout ce qui est titularisation, par exemple. Mais c'est aussi ce qui permet de maintenir l'illusion, je dirais, que ces deux choses-là sont pleinement dissociées. Et la traduction vient troubler cette manière de voir les choses, parce qu'en fait, elle met le doigt sur le fait qu'il y a des choses qui ont un coût. Parce que par des acteurs comme moi, par exemple, qui ne sont pas en poste, on fait un devis pour un travail et on met donc un prix, on met un tarif sur ce travail-là, ce qui pointe par ricochet la valeur marchande du travail des chercheurs aussi. Parce que si on est prêt à payer pour une traduction, c'est qu'on accorde un prix concret, quelque part, à cette production. Et ça peut aussi pointer des tâches effectuées par des chercheurs qui produisent des bénéfices pour d'autres. Donc je pense notamment au processus de peer review ou d'évaluation pour les revues, où on demande aux chercheurs, gracieusement, d'évaluer des articles. Dans le monde universitaire, de la publication universitaire anglo-saxonne, les chercheurs, donc un chercheur français à qui on demande de faire ça, c'est prestigieux, ça fait partie de ce qu'on appelle le rayonnement. Mais souvent, cette personne est obligée de payer quelqu'un comme moi pour traduire son expertise en anglais. Donc déjà, la personne paye pour pouvoir faire ce travail-là, qui ensuite fait tourner des grosses machineries en fait, de revues comme Elsevier, etc., qui font payer l'accès aux articles. Donc il y a aussi la traduction, le fait qu'il y a un coût à la traduction qui n'est pas intégré dans le fonctionnement immédiat des salaires universitaires, ça me pointe un peu ces questions-là. Et juste pour finir, je voulais, pour rebondir pour ce que tu disais sur les marchés publics de traduction, juste là pour le coup, un exemple, en fait, une université dont je tairai le nom et vous saurez pourquoi après, mais qui, en 2016, il y a eu une fusion de plusieurs universités dans cette ville qui a décidé donc de rationaliser leur processus et donc de mettre en place un marché public de la traduction, divisé en six lots, dont un lot intégralement pour les SHS, donc aucun traducteur indépendant ne peut répondre à un volume comme ça, donc c'était forcément une agence qui a remporté le lot. Mais les chercheurs se sont manifester contre cette décision-là. Dans un premier temps, ils ont essayé de voir s'il y avait moyen de contourner. Ce n'était pas possible. Donc, il y a eu tout un ensemble de bidouillages. Les personnes avec lesquelles je travaillais ont évoqué la possibilité de me payer pour, en vacation, me payer de leur propre poche pour ensuite se rembourser différemment sur des budgets. Donc, il y a eu tout un tas de questions, d'une certaine inventivité, on va dire. Donc, on a réussi pendant un certain temps à faire ça. Et après, de manière plus large, il y a eu une lettre rédigée par l'ensemble du pôle SHS de l'université qui insistait sur le fait qu'il demandait le retrait, l'annulation du marché en disant que, ce n'était pas, que la traduction n'était pas un produit marchand comme un autre, qu'on l'avait présenté comme ça dans ce marché public, mais qu'en fait, il n'était pas ça... Ça mettait à mal des années et des années de travail, de collaboration entre chercheurs, etc. Et à la dernière nouvelle, en fait, cette fédération des chercheurs a réussi à faire... maintenant, ils peuvent contourner s'ils veulent, et à terme, ça sera retiré. Mais c'est venu des chercheurs. Les traducteurs individuels n'avaient pas du tout de possibilités. Wow. Et ils ont aussi fait valoir, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, notamment pour les SHS, c'était de dire qu'en tant qu'une partie de leur département formait des futurs traducteurs et que donc déontologiquement, ils étaient vraiment opposés au fait de confier à des agences du travail qui enlevaient en fait des possibilités d'emploi précisément aux jeunes qu'ils étaient en train de former pour cette activité-là.
Très bien. Et c'est un peu aussi face à ce danger que l'association a été créée. Je vais passer la parole à Catherine.
Oui, donc c'est tout à fait ça. Mais avant d'arriver à la présentation de l'association, et donc du coup, comment est-ce qu'on espère qu'elle pourra peut-être répondre à certaines de ces problématiques, juste deux mots sur la perspective de ce... Enfin, comment est-ce qu'on peut voir ce marché dans la perspective d'un traducteur indépendant. Une des choses qui m'a le plus frappée quand j'ai commencé ce métier, et en plus venant d'un champ qui n'était pas la traduction professionnelle, c'était justement le manque de visibilité de ce marché. On sent bien que le marché existe parce qu'il y a des clients, il y a des demandes, il y a des financements. Mais en fait, au-delà du client direct qui peut être un chercheur, un laboratoire ou bien des revues universitaires, on a très très peu de vision de ce qui se passe derrière, d'où viennent les financements, où sont prises les décisions politiques, et par qui, pour combien et pendant combien de temps. Par exemple, la décision par exemple, le CNRS doit accorder un certain financement pour la traduction. C'est une décision qui peut être revoquée du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain, mais de la perspective du traducteur. C'est un peu ça, parce que personne ne prend le temps de prévenir le traducteur que les politiques sont en train de changer, que le financement va prendre fin, que dans 6 mois, en fait, la traduction pour les revues, ça n'existera pas. Ou que, par exemple, le marché a été accordé à une agence, à un grand groupe, et les traducteurs indépendants avec qui on travaillait auparavant, c'est simplement, soudainement, il n'y a personne au bout de la ligne, en fait. C'est très compliqué. Je pense que ce que on a souvent, c'est uniquement les ressentis et les échos qu'on peut avoir par son réseau personnel ou professionnel, par rapport à des financements, à les prises de décision qui sont derrière. Et du coup, des échos anecdotiques, pour le coup, comme celle que vient d'évoquer Lucie, de l'existence des grands marchés, auxquels des traducteurs indépendants sont tout simplement incapables de répondre que par leur volume. Le problème avec l'existence de ces grands marchés et du coup les agences ou les groupes qui sont à même d'y reprendre, c'est que par définition, souvent ces groupes ils sont peu spécialisés parce qu'obligés de regrouper plusieurs disciplines. Or, la traduction en SHS, ça demande une spécialisation disciplinaire. Donc, il y a un paradoxe là-dedans, ce qui fait que finalement, on a recours à des agences qui finissent souvent par embaucher de manière indirecte les mêmes traducteurs qui auparavant faisaient le travail directement avec les chercheurs. Donc, les traducteurs, ils touchent moins par mot nécessairement, ils sont moins bien rémunérés, travaillent donc avec les deadlines et les conditions de travail imposées par l'agence. Donc on a un appauvrissement réel des conditions de travail des chercheurs, enfin des traducteurs, pardon. Quelque chose qui est assez important à mon sens, c'est que la structure même de ces agences casse le lien direct entre le traducteur et le chercheur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à mon sens très important et qui revient un peu à ce que vous disiez par rapport à votre relation avec les chercheurs sur le texte de Freud. C'est que, de Mein Kampf, mais c'est la capacité du traducteur d'interagir directement avec le chercheur pour les textes en sciences humaines et sociales est vraiment essentielle parce qu'on travaille non seulement sur la traduction linguistique, mais aussi à une adaptation, une transposition culturelle qui, malgré les spécialisations qu'on peut avoir dans les disciplines, de par nos parcours professionnels de chercheurs, souvent, ça nécessite un échange, ça nécessite un approfondissement, parfois discussion sur les exemples les plus appropriés qui seraient à ajouter ou à échanger pour adapter le texte à son public de destination. Donc, casser ce lien-là, c'est très problématique. Mais c'est nécessaire pour la structure opérationnelle d'une agence, en fait, parce qu'on ne peut pas avoir un lien direct entre le traducteur et le client, parce que sinon l'agence, on se rend compte qu'en fait, on lui paye pas grand-chose. Après, il y a un problème donc, de course, je pense, vers le bas dans les conditions de travail. Donc, évidemment, on évolue dans un contexte où il y a très peu de financement, les budgets sont serrés de partout. À partir du moment où on considère que la traduction, c'est un service à fournir comme un autre et que du coup, ça se marchande, on pousse les prix au plus bas possible. Mais la question, c'est à quel prix ? Parce que le prix, il a payé non seulement pour le traducteur, mais également, je pense, pour la recherche, en fait. Parce que, et on reviendra ça vers la fin, mais donc moi, je vois le travail de la traduction et le report aux chercheurs comme un vrai un travail de recherche. Mais je pense que ce qui est en jeu dans la vision qu'on a du traducteur et de la traduction, c'est comment est-ce que la recherche française est ensuite reçue à l'étranger. Donc, parce que c'est l'existence de la traduction, de la recherche française qui est en jeu quand on parle de comment est-ce qu'elle est traduite. Donc, dans quelles conditions elle est traduite, en fait. Est-ce qu'elle est traduite dans les conditions de maximum efficacité, transposition directe, équivalence automatique d'un vocabulaire à l'autre sans se poser les questions du contexte ou de vitesse et de on va dire report qualité-prix, report qualité-prix, report prix surtout, minimal. Du coup, je pense que la qualité ne peut que souffrir. Donc l'association vient, on repense un peu au ressentiment de cette évolution vers les agences dans le marché de la traduction en France, et du coup au statut un petit peu, au fait que les traducteurs indépendants sont un peu pris au piège là-dedans, parce que forcément quand on est tout seul, on peut rien voir et on peut rien faire. Donc, l'idée, c'est donc de créer une fédération des gens qui se trouvent dans cette situation afin d'augmenter leur visibilité dans le champ pour qu'on puisse plus nous dire « Ah, ben oui, mais c'est tellement difficile de trouver des traducteurs compétents spécialisés. » Et aussi, donc, pour créer des liens entre les traducteurs, mais aussi entre les traducteurs et les commanditaires. Et aussi de travailler pour la reconnaissance des exigences, des capacités, des compétences qui sont nécessaires dans ce domaine. Donc, on demande par exemple, entre autres, à nos membres d'avoir un parcours de recherche, plus ou moins, fait, d'avoir une formation supérieure, un doctorat, un master dans leur discipline. Donc, on en travaille en sociologie, on traduit en sociologie ou en histoire. Après, bon, hein, ça peut être plus ou moins flou par rapport à... Mais en sciences sociales, on est formé en sciences sociales, on traduit en sciences sociales. Et voilà, et donc ça fait partie aussi de la vocation de l'association de contribuer à la professionnalisation du métier pour que on espère qu'on pourra, enfin, le plus qu'il y a des gens qui sont spécialisés en sciences sociales et qui savent montrer leurs compétences et leur professionnalisme, en fait, parce que c'est aussi un métier qui demande à avoir un comportement professionnel. C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de faire de temps en temps, comme on veut, ne pas respecter les délais, etc. Enfin, donc, en ce moment, on travaille à l'élaboration d'une charte de déontologie pour les traducteurs qui sont spécialisés, justement pour essayer de standardiser un petit peu les pratiques, de mettre des mots sur des exigences de base qu'on peut avoir d'un traducteur professionnel, comme a fait la TLF ou d'autres instituts, enfin d'autres associations de traduction. Et on voudrait aussi développer de proposer une espèce de vademecum pour les chercheurs qui auront recours à des traducteurs pour savoir ce qu'ils peuvent attendre des traducteurs professionnels, quelles sont les conditions de travail raisonnables, les tarifs, les délais, des choses tout bêtes comme reconnaître le travail du traducteur. Ce qui n'est pas forcément évident, en fait. Les traducteurs, les chercheurs ne sont pas forcément, de manière intuitive, prêts à reconnaître que le texte a été traduit. Ça dépend des gens. La plupart, ils sont tout à fait ouverts à la... Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais il faut le dire. Et du coup, c'est important aussi que les traducteurs savent qu'ils peuvent demander ça. Et du coup, en fait, c'est juste simplement de mettre les choses à plat pour savoir, voilà, dans un rapport professionnel, ce qu'on peut attendre. Et du coup, à contrario, ce qui relèverait des conditions qui sont injustes, des conditions de travail qui ne devraient pas être exigées, qui ne devraient pas être acceptées. Donc, des conditions de travail de rémunération ou de délai, ou par exemple, on nous dit souvent, ah oui, mais vous savez, les traductions en France, ils sont beaucoup trop chers, on préfère aller en Angleterre. Donc souvent, c'est quelque chose qui sort des conseils de laboratoire où les chercheurs sont obligés de défendre les devis que nous, on leur propose. Et du coup, l'Angleterre, ça représente une espèce de monstre assez anxiogène pour les traducteurs. Et en fait, en réalité... en Angleterre aussi, les tarifs, j'ai fait mes petits sondages qui ne sont pas du tout statistiques, mais très anecdotiques pour le coup. Mais ce que j'ai pu savoir, c'est que globalement, les tarifs ne diffèrent pas tant que ça. Ce qui diffère, c'est les tarifs entre agences, encore une fois, et traducteurs indépendants. Donc les traducteurs indépendants, ils sont à un tarif tout à fait similaire à ceux qui sont en France. Par contre, c'est les agences qui peuvent se permettre, en fait, de couper complètement le marché. Et qui, pire encore, propose aux traducteurs indépendants de travailler pour donc, un tarif moitié moins grand, en disant, oui, vous savez, les textes, ils sont vraiment intéressants. Vous allez voir, c'est rien à voir avec la traduction technique. Donc, en fait, ils sollicitent, du coup, des traducteurs qui sont non spécialisés, qui ont, en fait, des traducteurs techniques qui sont habitués à faire des traductions tout à fait, on va dire, comment dire ça ? Voilà, pragmatiques. qui ne demandent pas énormément de réflexion critique, et on va leur donner donc des textes qui sont au contraire très très compliqués au niveau critique, analytique, qui doivent être situés à l'intérieur d'un champ disciplinaire scientifique, et on va leur dire, c'est génial, vous allez trouver, c'est complètement différent de traduire des manuels d'utilisation de machines à laver. Mais en plus, on va vous payer moins cher. Enfin, c'est assez paradoxal. Donc, je pense que c'est important que les chercheurs soient au courant de ce qui se passe, en fait, dans les politiques des agences, ce qui constitue des conditions de travail légitimes et nécessaires pour que les traducteurs puissent travailler dans les bonnes conditions et faire un travail qui est, voilà, de qualité, simplement. Voilà.
Merci. Tu as commencé à aborder des questions sur le statut de l'auteur, et bien sûr, parce que les thèmes sont liés. Donc peut-être on finit le tour de table, et bien sûr ensuite vous pouvez intervenir sur ce thème. Hein. Olivier Manoni, vous qui avez dirigé une association de traducteurs, cette idée d'association, comment vous le voyez? Et puis bon, bah, par rapport à ce que vous avez entendu.
Les associations sont absolument essentielles dans tous les domaines. Il y en a plusieurs. L'ATLF, celle que j'ai présidée il y a quelques années, à 45 ans maintenant, mais on voit toujours avec beaucoup de plaisir des associations se créer dans précisément des domaines où on n'avait pas accès. La première qui s'est créée sous notre égide à l'époque avec notre aide, ça a été pour l'audiovisuel, qui connaissait une crise analogue à la vôtre, parce que le problème des agences, dont on pourrait parler plus longuement ce soir, parce que c'est quand même un des scandales actuels dans le domaine de la traduction, les agences ont cassé cassé les prix, non pas par deux, mais pratiquement de 60 à 70% dans le domaine de l'audiovisuel. Et donc on est toujours ravis qu'effectivement des gens prennent leur destin en main sur des choses tellement spécifiques que moi, tout ce que vous me dites ce soir, je n'y connais strictement rien. Ce qui est similaire pour un certain nombre de métiers, c'est le problème des agences, effectivement, qui sont très vivement encouragées. Moi, j'ai vu ça, in vivo, si j'ose dire, enfin, ça ne vivait pas beaucoup, à la direction générale de la traduction à Bruxelles, où j'ai eu une réunion, mais totalement surréaliste. Déjà, on était en direction de la direction de la traduction, il y avait 8 interprètes en cabine et tout le monde est venu parler globish pendant que les interprètes dormaient tranquillement. Donc c'était très mal. La traduction était totalement absente du coup du débat. Et par contre, là, on a beaucoup parlé du rôle des agences qui était très important au regard du directeur général. Et on a lutté, nous, à la TLF, il y a quelques temps, il y a 15 ans maintenant déjà, contre une initiative du ministère de la Culture qui cherchait, là aussi, en passant par des agences mais d'informatique, à automatiser la traduction de la totalité de ces sites vers l'étranger. En passant par de la traduction automatique qui était encore plus mauvaise à l'époque qu'aujourd'hui, c'est vous dire. Et du coup, on a simplement envoyé à Madame Abanel, qui était le ministre de l'époque, une lettre qui avait été traduite par ma collègue qui était présidente de la SFT, à l'époque, qu'elle avait traduit en anglais, qu'on a remis dans un traducteur automatique et qu'on a envoyé tel quel à la ministre. Ça se terminait par « nous restons votre cas » pour vous donner une idée de ce que ça pouvait être. Donc, de ce point de vue-là, le rôle des associations est absolument essentiel, précisément parce qu'on peut contrer cette politique qui est totalement pernicieuse et surtout qui est totalement ignorante. C'est très important ce que vous avez dit, c'est-à-dire le rapport entre, non pas le client, mais l'auteur, parce que c'est ça le problème, et le traducteur, les agences le gomment totalement. Et c'est dramatique. C'est-à-dire que, notamment en sciences humaines, si on ne peut pas téléphoner à un auteur ou lui envoyer un mail en disant « qu'est-ce que vous voulez dire ici ?», c'est fini. La traduction est terminée. On peut, voilà. Autrement, moi, je travaille sur un marché. Je fais beaucoup de sciences humaines. Je travaille sur un marché qui n'est absolument pas le même, où la valeur de la traduction, parce que c'est un peu le sujet de soi, est tout à fait évaluable. C'est la place qu'on prend dans un compte d'exploitation. Et donc, on est dans un domaine où, en fait, la valeur de la traduction est mise en balance avec la possibilité de vendre des livres, c'est-à-dire qu'un éditeur comme Odile Jacob, par exemple, ou Les Puffs, ou La Découverte, pour prendre les Oupayot, va examiner des probabilités de vente pour voir s'il a une chance simplement de rentabiliser son projet. Il peut aussi décider de faire le projet même s'il sait que ça n'est pas rentable, parce que soit il fait de l'investissement sur un auteur à long terme, soit il considère que c'est un sujet tellement important qu'il faut le traiter. Mais notre valeur est là, et elle est à peu près identique à un traducteur pour l'édition non spécifiquement universitaire. Mais alors après, là aussi, il faudrait définir des limites, parce qu'elles sont souvent très floues. Les puffs font énormément de livres qui sont pratiquement grand public, par exemple. Notre valeur, elle est celle du prix au feuillet qu'on a, qui se promène autour de 23 euros pour l'allemand et qui varie très très peu. Et on a la chance d'avoir pu repousser, parce qu'on a eu des tentatives, toutes les tentatives d'agence pour s'interposer entre les éditeurs et nous, avec des promesses qui étaient de livrer des textes impeccables, ce qui est une vaste rigolade, et évidemment de faire baisser les prix. Jusqu'ici, on est toujours arrivé à ça. Reste la menace, mais ça, on en reparlera plus tard, parce que c'est une question extrêmement intéressante et complexe, des traducteurs automatiques, qui, à mon avis, n'est pas une menace, mais qu'on nous brandit comme une menace, ce qui n'est pas la même chose. Voilà.
Merci, Thierry Paulbeau.
je ne vais pas dire grand-chose sur les agences parce que je n'ai jamais creusé d'agence. En fait, en tant, aussi bien que directeur de laboratoire CNRS en linguistique, on a recours des fois à de la traduction. On a affaire directement à quelqu'un qu'on connaît justement et on sait qu'on a nos habitudes, enfin entre guillemets, nos habitudes et on fait appel à quelqu'un qui est linguiste et qui est traductrice. En général, c'est vers l'anglais et qui est d'origine anglaise et qui fait de la traduction professionnelle de qualité. Et aussi dans la maison d'édition, donc c'est aussi des traducteurs directement, enfin des personnes, c'est pas des agences par lesquelles on passe. Je pense juste, donc du coup, je suis relativement incompétent, je ne vais pas en dire plus que ça. Juste quand même sur le premier point, vous avez cité Elsevier, et donc sur l'édition, les revues et les livres dans l'édition universitaire. Je pense que, enfin, bien que je ne sois pas très compétent sur les histoires de coûts et sur l'édition universitaire dans le domaine, je pense qu'on ne peut pas oublier ce que dit toujours le CNRS et les autres, à savoir qu'on paye, alors s'il y a la traduction en plus dans l'affaire, on paye 4 fois, c'est-à-dire que le CNRS paye actuellement les chercheurs, la publication, parce que des fois il faut payer pour être publié, et il paye une 3e fois pour acheter la revue dans laquelle c'est publié. Ce qui est un système complètement absurde, et je pense que, effectivement, il y a peut-être plein de problèmes, et je ne sais pas pour tirer les coups vers le bas, mais en l'occurrence, quand on voit, je sais que l'ENS, où on travaille l'École normale supérieure, avec, je pense, quasiment au niveau national, a coupé toutes les commandes vers Springer, qui était un marché de, je ne vais pas dire de bêtises, mais de plusieurs millions par an pour avoir accès aux revues, qui sont des revues donc publiées par internationales, donc publiées par des Américains, des Anglais, des Allemands et tout, mais aussi par des Français, et pour lesquels, des fois, les gens payent pour avoir un article publié. Donc, ils payent en plus la traduction, ils payent les chercheurs qui font la recherche pour être publié avec une cession complète du copyright, donc du droit d'auteur, vers Springer. Donc le CNRS, même, ou le chercheur, a la propriété intellectuelle, entre guillemets, mais n'a aucune propriété, n'a aucun droit d'auteur là-dessus. Et le chiffre d'affaires et les bénéfices de Springer, donc, je pense qu'on est dans un modèle qui varie, qui est en train de changer beaucoup, mais c'est quand même en millions et dizaines de millions. Donc on peut comprendre aussi que le CNRS, alors je ne dis pas que les agences sont la solution, il y a peut-être dans l'affaire des problèmes qui interviennent après, mais on peut comprendre que le CNRS et d'autres acteurs essayent de rationaliser tout ça, sachant que les dizaines, voire les centaines de millions qui sont mis dans les revues à l'étranger pourraient être réinvestis dans les travaux d'édition en France, y compris la traduction, dans une chaîne complète qui inclurait la traduction. Et je pense que de cet aspect-là, donc, il y a sûrement plein d'aspects négatifs dans l'affaire, mais il peut aussi y avoir des choses positives en essayant de récupérer ça. Il y a un mouvement vers les grandes revues de linguistique, enfin dans tous les domaines, des gens qui s'abordent la revue, c'est-à-dire que ce qui fait le prestige de la revue, c'est le comité de rédaction. Donc le comité de rédaction qui démissionne en bloc parce qu'ils ne peuvent pas négocier pour que les revues aient un accès, enfin soit un accès gratuit sur Internet, et refondent une revue avec un nom similaire juste à côté, parce que c'est ça qui fait le prestige de la revue, et c'est pas, c'est aussi un peu Springer ou Elsevier et tout ça, mais on sait que de moins en moins, c'est ce genre de choses qui fait la valeur, avec des systèmes assez originaux. Alors, je connais juste un peu ce qui se fait, enfin, je ne connais pas, mais juste en tant que chercheur, en ayant accès à ce qui se fait au MIT, donc chez beaucoup d'autres éditeurs, j'imagine, mais où maintenant, il y a des accords, la revue internationale dans mon domaine, qui est Constitutional Linguistics, est en libre accès sur Internet. Et elle est payée, enfin, je ne sais pas comment elle est financée, mais par les gens qui adhèrent à l'association de traitement des langues qui gère cette revue-là en anglais. Il y a un livre de référence sur le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui est la technique d'apprentissage la plus à la mode à l'heure actuelle. Le chercheur le plus prestigieux dans le domaine a publié un livre avec un accès un peu innovant. Donc là, c'est pour en anglais, donc on sort un peu de la perspective de traduction, mais je pense que c'est important de voir aussi que le monde de l'édition bouge, avec un livre qui est en accès libre sur Internet, donc on peut le lire page par page sur un site du MIT, et on ne peut pas l'imprimer. Donc je ne sais pas comment ils font pour bloquer ça. Si on a si on veut bidouiller, peut-être qu'on peut arriver à avoir le texte, mais le livre fait quand même 700 ou 800 pages. Il est vendu par ailleurs par MIT pour. Évidemment, il y a aussi un modèle de coût derrière. Mais je pense qu'il y a des modèles originaux, intéressants, qui sont à l'heure actuelle, qui bougent beaucoup, qui sont à l'œuvre dans les sciences dures depuis quelques années, et qui interviennent maintenant dans les sciences humaines pour des. Je pense qu'il y a toujours besoin d'ouvrages papier, et je ne suis pas contre les revues ou les ouvrages classiques, mais je pense qu'il y a plein de revues dans mon domaine des revues spécialisées en linguistique de terrain, ou des choses comme ça, où la revue tire à 50 ou 100 exemplaires Et le lectorat peut parfois être très éloigné en Australie ou je ne sais où. Je ne suis pas sûr qu'il y ait du sens à avoir des revues papier qui coûtent très cher à imprimer. Enfin, il y a plein de problèmes et là, on sent un peu il y a problème de maintien, de qu'est-ce que ça va devenir dans 20 ou 30 ans. Est-ce qu'on aura toujours accès à ces revues? Ça, c'est un problème important qu'il ne faut pas négliger. Mais le fait que le coût soit baissé par des fois par 10 et que des gens à l'autre bout du monde y ont accès, je pense que c'est intéressant, bien que le papier a d'autres avantages, notamment pour la préservation. Mais je pense que donc ça sort un peu du débat, mais je pense que c'est important, quand on parle de traduction, de voir le changement du mode des modèles dans l'édition qui sont parce que tout est lié. Enfin, je pense que la traduction est liée à ça, et ça peut ouvrir de nouvelles perspectives aussi.
Merci. Donc, est-ce qu'il y a dès maintenant des questions, des remarques, des commentaires de votre part ?
Bonjour. Je profite qu'il n'y a pas d'autres questions, en fait, pour peut-être apporter un petit contrepoint. On a parlé des agences dans le milieu de la traduction en sciences humaines et sociales, qui est un phénomène relativement nouveau. Dans le domaine aussi pour le ministère, c'est de la traduction automatique. Bon, pour la traduction littéraire, Dieu merci, il n'y a pas encore d'agence. En revanche, les agences sont extrêmement répandues dans ce qu'on appelle chez nous la traduction pragmatique et qu'on appelle chez les traducteurs indépendants traduction technique, juridique, médicale et ainsi de suite. C'est beaucoup plus répandu. Et en fait, beaucoup de traducteurs pragmatiques trouvent leur compte dans le travail avec ces agences. Alors je m'explique, pas avec toutes les agences, clairement, il y en a des très mauvaises qui ne servent qu'à... qu'à faire baisser les coûts et à essayer de proposer un service pour le moins cher possible, qui aille le plus vite possible, sans préoccupation de la qualité. Il y en a d'autres qui, souvent de taille plus modeste, qui essaient de faire ce travail et qui conçoivent plutôt leur travail comme un travail, disons, notamment pour tous les clients qui ont besoin de traduire dans beaucoup de langues. Donc ils vont faire un espèce de travail de coordination, un travail de cohérence de la terminologie entre pour des travaux qui demandent de collaboration. Alors vous allez me dire, soit, mais c'est quoi l'intérêt du traducteur? En fait, beaucoup de traducteurs consacrent énormément de temps à chercher des clients, à démarcher, à prospecter, à faire valoir leur compte. Ce qui est extrêmement chronophage et qui est un travail, puisqu'on est indépendant, on n'est pas payé pendant ce temps-là. L'avantage des agences est qu'elles vont faire, si vous êtes bon, que l'agence est satisfaite de votre travail, parce que c'est rare qu'un traducteur n'a pas intérêt à travailler pour une seule agence, elle va faire tout ce travail de marketing pour vous. Elle va vous apporter les clients. Alors moi, personnellement, je ne travaille à 99% pour des clients directs, donc je ne suis pas forcément convaincue, mais c'est pour dire que le tableau n'est pas complètement noir et qu'il y a une partie de la profession qui y trouve son compte.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand les agences ne se comportent pas comme des parasites, elles sont intéressantes. Dans nos domaines, c'est clairement des écrans, c'est tout. Et ce sont des écrans qui ont été imposés. On l'a vu arriver simplement à un moment dans la traduction littéraire, quand il y a eu le RGPP, où les maisons d'édition qui dépendent de l'État, donc par exemple la Réunion des musées nationaux, ont été pendant un moment obligées de passer des appels d'offres auxquels les traducteurs littéraires qui font d'habitude ce travail ne pouvaient pas répondre parce qu'ils n'avaient pas le statut, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, on a vu effectivement des agences arriver et nous proposer simplement de servir d'intermédiaire entre pratiquement fictif. Enfin, je veux dire, on était à la limite de l'absurdité entre la RMN qui parfois passait par les mêmes traducteurs mais qui avait besoin de ça pour lancer des appels d'offres qui étaient bidons puisque de toute façon, on prenait les mêmes traducteurs. Je crois que ça s'est tassé puisque je revois de nouveau en fait les grands musées, etc., passer de nouveau des commandes directes. Donc, on a dû oublier ces crétineries. Mais quand les agences sont comme ça, c'est vraiment du parasitisme. C'est-à-dire qu'elles mangent un tiers de nos revenus pour rien et elles nous empêchent en fait de travailler.
Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations qui sont vraiment très éclairantes. Ne connaissant pas le monde de la traduction, j'ai beaucoup appris. Donc, quelques mots sur moi peut-être. Je suis donc maître de conférence de sociologie. Je pense que les pires ennemis des traducteurs professionnels, c'est non seulement les agences, mais aussi les chercheurs eux-mêmes. Pourquoi ? Pardon ? Ah, pardon. Désolée. Pourquoi les chercheurs eux-mêmes ? Enfin, moins les chercheurs eux-mêmes que le système de fonctionnement de la recherche, qui est en partie fondé. Mais c'est le cas à l'université. Moi, je suis dans un labo CNRS, mais à l'université, évidemment, tant que maître de conf. Enfin, on sait bien que ce système-là est fondé en grande partie sur la précarité et la précarisation, notamment des jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants. Quand j'étais thésard puis post-doc, j'avais d'ailleurs été sollicitée par une de ces agences. Alors, soyons clairs, je parle un peu anglais parce que j'ai fait du terrain en Angleterre. Mais je suis avant tout sociologue, hein. Je ne suis absolument pas linguiste, je n'ai aucune compétence linguistique. Et j'étais sollicitée, donc je n'ai jamais répondu, mais je suis encore sollicitée en tant que comparativiste par mes collègues eux-mêmes, en disant bon, « tu nous l'as fait rapidos, entre deux portes, comme si ça s'apprenait ». Et donc évidemment, je pense que le rôle de vos associations et de vos positions, c'est aussi de rappeler que la traduction, ça paraît simplissime à rappeler comme constat, mais ça ne s'invente pas, bien sûr. On est chercheur, on est traducteur comme on est chercheur. Et donc, en termes de statut, le statut professionnel est associé évidemment à la reconnaissance de ce statut symbolique qui est là, et la professionnalisation qui va derrière, en fait. Donc voilà, la question, c'est est-ce que finalement les chercheurs ne sont pas les meilleurs ennemis ou les pires amis des traducteurs ? Voilà.
Clairement, ça va revenir dans la deuxième question, mais moi je dirais oui et non, mais sans aborder toute ma réponse pour la deuxième question, je n'irai pas plus loin.
Bonjour, je m'appelle Fanny Lamy, je suis traductrice indépendante. Je voulais poser la question aux intervenants sur le sujet donc des agences qui cassent le marché et le lien entre le traducteur et l'auteur du texte. Est-ce que dans ce cas, alors c'est un phénomène qu'on observe sur tout le marché de la traduction, pas uniquement dans les sciences humaines et sociales. Est-ce que dans ce cas particulier où on a affaire, on est dans le domaine public, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait, que les associations dont vous pointiez les associations de traducteurs jouent un rôle peut-être consultatif auprès des instances publiques en amont, du coup, pour éviter la formation de ce phénomène et la propagation de ce phénomène dans ce domaine en particulier.
Je vais vous répondre en deux temps. Le premier, pour ce qui concerne la concertation professionnel entre le ministère de l'Éducation nationale et des universités, par exemple, et les associations de traducteurs. Dans le domaine de la traduction littéraire, nous avons à peu près entre 13 et 15 masters de traduction qui font sortir sur le marché chaque année entre 100 et 110 étudiants, dont à peu près 90-95 anglicistes. Pour un vivier de traducteurs littéraires professionnels qui se situe autour de 1500 personnes. Tous les ans, on a de nouveaux masters qui apparaissent, qui ne nous passent même pas un coup de téléphone pour savoir ce qui se passe, est-ce qu'il y a du travail. Rien, on les voit surgir, alors qu'on est la seule association professionnelle. Et on a essayé, il y a 10 ans à peu près, de prendre contact avec le ministère pour tenter de leur dire « Mais attendez, excusez-nous, il y a un problème, vous ne pouvez pas faire des masters pro, tous les ans faire 100 diplômés, dont 95 vont se retrouver dans 10 ans avec un autre métier. » Et on n'a jamais réussi à faire un seul pas. enfin, même pas avoir un contact. C'est-à-dire, on a eu des contacts avec les directeurs de master, mais c'était les directeurs de master sérieux qui, eux, faisaient vraiment de la professionnalisation, pas avec les autres. Et au ministère, on n'a jamais eu un contact, ne serait-ce que ça. Et quand, avec l'affaire qu'on a eue avec le ministère de la Culture, c'est parce qu'on a eu une page dans le Canard Enchaîné, deux pages dans Charlie Hebdo qu'on a réussi à discuter. Quoi. Ça a été vraiment... Donc c'est assez dramatique. Le poids qu'on a, nous, sur par exemple sur Bruxelles, où pourtant on a une énorme association qui s'appelle le CEATL, qui regroupe 27 associations européennes, donc c'est un truc vraiment extrêmement structuré. Très, on fait littéralement pas le poids par rapport au poids du lobby financier des agences qui ont beaucoup plus d'argent que nous, et qui donc ont des gens qui sont à Bruxelles en permanence pour pousser. Voilà, deux réponses. C'est très, très difficile de faire bouger les choses, même quand le bon sens, dans le cas des masters, quand le bon sens voudrait qu'on arrête le massacre. Quoi. Et ça continue.
Par contre, ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à la situation avec les musées, ça semblerait que, quelque part, il y a eu un retour de positionnement. Donc,
c'est pas nous.
C'est pas la télé.
Donc, nous n'y sommes pour rien. Je pense que c'est simplement que les musées ont très, très rapidement, eux, fait remonter le fait que c'était impraticable. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec une agence, vous ne savez pas avec qui vous allez travailler de l'autre côté. Et qu'il y a tout un travail d'édition, enfin, que vous connaissez très bien, qui suppose un contact direct entre le traducteur et son commanditaire. Au sein, par exemple, de la réunion des musées nationaux, au sein des éditions d'art du Louvre, et que si ce contact-là n'existe pas, c'est invivable. Donc, je crois que c'est...
Et du coup, en fait, ça m'amène à rebondir quand même sur les questions d'Annabelle, mais l'idée des chercheurs comme le pire ennemi, en fait, les chercheurs, ils peuvent... Pardon. Aussi être les meilleurs défendeurs, si on peut dire, des traducteurs, parce que je pense que surtout, c'est aussi les chercheurs qui sont plus à même de se rendre compte de la qualité, de l'importance de la qualité de la traduction. C'est eux qui ont les plus, enfin, on va dire, les enjeux, ils sont plus grands pour eux, en fait. Un article qui est mal traduit, un livre, pire. Enfin, le livre, il tombe, enfin, il n'existe plus. Et du coup, c'est quand même, pour les petits articles, oui, que ça passe entre collègues, etc. Est-ce que ça enlève... bon, là, on revient plus sur le lien entre la recherche et la traduction. Et voilà, ça, c'est peut-être une autre question, mais je pense que les chercheurs, s'il y a de la visibilité, des traducteurs professionnels qui sont spécialisés dans le monde de la recherche, spécialisés en sciences sociales, cette visibilité, ça peut aussi faire que les chercheurs se rendent compte de l'enjeu et aussi des gens qui sont sacrifiés aussi. Derrière. Parce que justement, ce que vous disiez par rapport au contact dans votre labo, vous avez dit, vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé depuis longtemps, qui est linguiste, donc vous lui faites confiance parce que vous la connaissez, tout ça. Si demain, on vous oblige à passer par une agence anonyme avec des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est les chercheurs qui peuvent s'opposer à ce processus.
Oui, ça, enfin, c'est juste très rapidement pour dire que c'est exactement ce qui s'est fait dans l'exemple que je donnais tout à l'heure. Il y a eu une consultation, du coup, à cause des revendications des chercheurs, mais ça ne s'est pas fait dans l'autre sens. Il n'y a pas eu une consultation avant de décider de passer ou de proposer un marché public. Le marché public a été décidé au niveau central et ensuite c'est les chercheurs qui n'ont pas lâché, qui ont continué pendant plus d'un an à dire ça ne marche pas, nous avons des relations individualisées avec des traducteurs et nous voulons continuer à travailler de cette manière-là. Mais on pourrait avoir l'impression que c'est inévitable quelque part parce que c'est la machine centralisée qui impose. Mais en sensibilisant les chercheurs au fait qu'il y a la possibilité en fait, de dire non, ça ne fonctionne pas. Et voilà pourquoi ça ne fonctionne pas et nous ne sommes pas d'accord.
Donc là, vous prévenez en fait, des futurs marchés publics.
Disons-le, le HESC Chi a créé un marché public. Mais peut-être en concevant un système d'allocation qui s'appuie sur les collaborations existantes. Alors, je ne sais pas quel exercice de haute voltige ça impliquerait, mais voilà, en tout cas. cas, c'est pour dire que c'est tout à fait actuel. On a sensiblement abordé forcément certaines autres questions de notre petite typologie en trois temps tout à l'heure, mais le deuxième élément important de la discussion, c'était celui du statut, parce que finalement, on pourrait effectivement se poser la question, par exemple, de pourquoi le CNRS, pour ne citer que lui, ne recrute pas des traducteurs comme il recrute des professionnels de l'édition, enfin des chargés d'édition. Dans ce qu'ils appellent poétiquement les branches d'activité professionnelle, on pourrait imaginer à une époque où maintenant tous les chercheurs presque voient la nécessité de faire traduire et tous les laboratoires voient la nécessité, effectivement, l'aspect que Lucie Garnier disait tout à l'heure, dès le projet en voie de soumission pour demander un financement plus important qui lui-même ensuite, etc. Donc tout le monde voit la nécessité de traduire et on aurait une impression de nécessité de réinternaliser finalement, ou pas forcément à l'échelle des laboratoires, mais à l'échelle d'institutions de taille moyenne ou large, des fonctions de titulaires, de traducteurs titulaires finalement, dans le monde de la recherche, au même titre qu'il y a des chercheurs titulaires ou des éditeurs titulaires ou des...
Je m'appelle Myriam Perrier, moi je travaille à Sciences Po et je m'occupe de publications en anglais. Et donc la fiche métier traducteur existe dans les métiers du CNRS, mais effectivement il n'y a pas de recrutement prévu, mais elle existe. Par ailleurs, donc voilà. Par ailleurs, il existe un service de traduction et d'editing, si je ne me trompe pas, à l'INIST. Alors, je pense qu'ils sont débordés et que, de toute façon, ça ne s'adresse qu'aux autres chercheurs CNRS, mais il y a quand même... ça existe, c'est petit, voilà, mais il y a quelque chose.
Alors, du coup, bon, c'est pas une question forcément que j'ai posée, mais si vous avez des réactions, allez-y.
Travaillant au CNRS, je suis comme défendre le CNRS. Je suis pas sûr que ça aille dans le sens de ce que disent les gens, enfin, de ce que disent mes collègues. C'est... Parce que le CNRS est quand même très... Bon, déjà, il y a très peu de recrutement au CNRS. Enfin, c'est un peu la crise partout. Donc, il y a 50 chercheurs en moins cette année. On est à 200 chercheurs, alors qu'on était à 400 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça explique pourquoi il n'y a pas des... Enfin, je pense que chaque métier défendrait son biftec. Il voudrait qu'il y ait des recrutements dans tel et tel métier. Et en plus, sa traduction, à mon avis, pose un problème technique. C'est que les recherches sont extrêmement variées. Donc, qui est-ce qu'on embauche? Et si vous allez avoir un peu le problème des agences, le coût en moins... C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, pour traduire votre article, il faut que vous alliez voir le traducteur qu'on a embauché. Et je ne suis pas sûr que le chercheur soit satisfait et que même le traducteur soit compétent sur tous les sujets. Donc le CNRS ne va pas embaucher 1000 traducteurs. Je ne suis pas sûr qu'avec un pool de 10 traducteurs, ce serait. Il y aurait un problème d'accès, il y aurait un problème de qui. On traduit quel texte de qui, est-ce que le traducteur est compétent sur tel et tel texte. Donc je pense que le CNRS est tellement varié, couvrant. Il y a quand même 40 sections, ou même plus maintenant, et des sections pluridisciplinaires, que ça me semblerait très difficile. Et je pense que c'est peut-être pas un mal d'avoir, de garder un lien avec, enfin, en rémunérant normalement les gens, mais que les traducteurs soient pas internes, enfin, soient pas fonctionnalisés et internes au CNRS, je ne suis pas sûr que ce soit un mal en soi. Mais bon, c'est une vue personnelle.
Et d'ailleurs, je sais que j'avais rencontré il y a 2 ans à Rouen, dans un contexte d'une journée professionnelle, un représentant d'un bureau internalisé à Brest, à l'université de Brest, qui est je crois que ça s'appelle le bureau universitaire de traduction. Et ils sont donc 3 salariés qui gèrent les projets. Donc ils gèrent en moitié les projets internes à l'université et pour l'autre moitié des projets externalisés. Mais donc les salariés fonctionnent un peu comme une agence, en fait. Donc finalement, ce service interne est fait de... Il y a un anglophone, un francophone et une personne qui fait la gestion de projet et qui travaille avec des traducteurs indépendants. En revanche, les tarifs sont moins élevés que ce que vont pratiquer, ce qu'on paye les traducteurs est moins élevé que ce que les traducteurs indépendants vont prendre, mais rien à voir avec les agences du marché privé, on va dire, non plus. Il y a quand même une certaine garantie. Donc ça, c'est une sorte de solution hybride qui a été pratiquée dans une institution. Mais à ma connaissance, ça ne s'est pas généralisé.
Juste un mot sur le CNRS. S'il y a des embauches de traducteurs au CNRS, ce sera des traducteurs vers l'anglais pour les projets et pour ce genre de choses. De toute façon,
Peut-être, pardon.
Non, juste pour rebondir par rapport à ce que disait Lucie, il y a une autre structure équivalent, à mon connaissance, je connais au moins une autre, qui est celle, enfin, qui est en fait au CEVIPOF, qui est rattachée à Sciences Po. Il y a quelqu'un qui est Chantal Barry, en fait, qui est là pour faire les traductions du membre de CEVIPOF vers l'anglais. Et donc traduction, mais aussi relecture de toutes les communications, tous les papiers, tous les articles et tout ça. Elle est un peu chargée de la communication des chercheurs vers l'anglais. Elle est là à leur disposition. Elle est salariée, je crois. Ouais. Ce qui permet, en fait, l'avantage de ce genre de système où le traducteur est internalisé, non pas au niveau du CNRS, effectivement, il y a un problème de trop grande hétérogénéité de matière, mais internalisé au laboratoire, ça veut dire que le traducteur peut se permettre de vraiment de aller jusqu'au bout de sa spécialisation, en fait. Et moi, je trouve que vraiment, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, dans la mesure où, si on sait que l'essentiel, enfin, voilà, 90% de nos travaux sur l'année vont être en études anglophones parce qu'on est rattaché à tel labo, en sciences politiques parce qu'on est rattaché au CEVIPOF, ça veut dire que, du coup, on se permet de faire la recherche, même nos propres recherches, dans ces domaines pour rester à la pointe des débats, à la pointe du vocabulaire, des choses qui évoluent en fait et qui nous prend du temps en termes de recherche personnelle pour pouvoir faire des traductions qui sont de meilleure qualité possible, hein, simplement. Et du coup, a priori, ça rendrait les traductions de meilleure qualité et aussi certainement aussi plus efficaces parce qu'à partir du moment où on passe nos temps dans cette discipline, on n'a plus besoin, moins besoin d'aller faire la recherche annexe, les jours de préparation avant de commencer une traduction, de lire toute la bibliographie, parce que finalement, la bibliographie, on en connaît à peu près. Donc voilà, ça, pour moi, ça serait vraiment une situation assez géniale. Par contre, effectivement, de là à la réalité.
Non, mais disons qu'il y aurait un intérêt à réfléchir en termes de comparaison avec d'autres métiers qui existent, par exemple au sein du CNRS ou ailleurs. L'exemple étant les secrétaires de rédaction des revues, par exemple, qui ont affaire, si on y réfléchit, à une hétérogénéité, et pas des moindres, qui, à l'échelle de carrière, vont travailler dans des revues, passer de l'archéologie à la turcologie. Je connais une personne comme ça. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a un travail de vérification qui se fait en lien avec les chercheurs du laboratoire, évidemment, dès lors qu'on rentre dans le domaine de compétences et de certaines personnes, et qui suppose l'acquisition de nouvelles compétences aussi. Donc finalement, il ne faut pas non plus raisonner à stock de compétences établies définitivement. L'acquisition de nouveaux savoirs pour des personnes qui font du rédactionnel, enfin de l'édition scientifique, comme pour des traducteurs ou traductrices, doit pouvoir se penser. Voilà, c'était juste un élément de réflexion.
Juste une précision. Aucune maison d'édition en France, à ma connaissance, n'a un seul traducteur salarié. Ça n'existe pas non plus. Et c'est très bien.
Peut-être un point là, du point de vue de la maître de conférence sociaux, mais aussi de la sociologue de l'enseignement supérieur. Je pense que les mouvements d'autonomisation des établissements d'enseignement supérieur en ce moment vont aller dans le sens que vous décrivez, c'est-à-dire des cellules qui soient à la fois des cellules de gestion de projet qui solliciteront des traducteurs spécialisés dans des disciplines et en même temps des traducteurs de dossiers. Vous avez mentionné l'IUF, il y aura cette double casquette-là. Parce qu'évidemment, ce sera dans l'intérêt des universités de se valoriser sur les deux plans, d'aller chercher des IRC, évidemment, et en même temps de publier en anglais, de traduire leurs chercheurs en anglais. Ceci dit, le mouvement d'autonomisation de l'enseignement supérieur, ce sera peut-être bien de ce point de vue-là, mais évidemment, ça aura des conséquences sur un certain nombre, voire un nombre certain d'établissements, parce que ces cellules-là, elles vont être concentrées dans certains établissements. Sciences Po, je ne jette pas du tout la pierre à Sciences Po, j'en reviens, mais peut-être le HESS, peut-être l'Université de Lille, l'Université de Strasbourg, l'Université d'Amiens ou l'Université de Brest, etc. Donc le problème pour les traducteurs, si je prends votre point de vue, en fait, il sera le même, parce qu'il va y avoir une concentration de travail auprès de certains établissements qui sont les 10 ou les 15 désignés comme excellents, et puis les autres vont péricliter peu à peu. C'est ça le risque, mais peut-être que je fais ma Cassandre.
On peut peut-être quand même revenir un tout petit peu à la question du statut du traducteur comme auteur, parce que dans la différenciation des secteurs dont on a parlé, il y a quand même un risque que peut-être le statut d'auteur de la traduction soit remis en cause, alors que ce soit en termes symboliques, quand le nom n'est pas indiqué du traducteur pour les articles, par exemple, ou bien en termes de méconnaissance de non-reconnaissance de la capacité du traducteur à valider la traduction. Si on demande, par exemple, à des chercheurs de valider les traductions des traducteurs, quelque part, on insinue l'idée que voilà, un traducteur qui ne serait pas un chercheur ne serait pas en mesure d'aller jusqu'au bout. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Voilà, donc toutes ces questions du statut. Je ne sais pas, Marc, si tu voulais rajouter quelque chose sur l'auteur.
Non, après, pas sur l'auteur, mais sur le statut aussi juridique. Peut-être qu'on pouvait, discuter des évolutions récentes telles que vous les avez perçues ou telles que vous les percevez. Il y a ce point-là aussi, effectivement, dans les méthodes de validation du travail, de rémunération et de certification des formations, finalement. Mais ça, c'est des points qui ont été déjà un peu abordés. Donc c'est vrai que si vous voulez, par rapport à vos expériences, si vous avez quelque chose de précis que vous vouliez dire, c'est vrai qu'on peut, continuer là-dessus, oui.
Peut-être Olivier Manoni, si vous vouliez commencer. Non,
il faut d'abord rappeler une seule chose, c'est qu'un traducteur, quel qu'il soit, à partir du moment où sa traduction est diffusée, est un auteur. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est la Convention de Berne qui est dans la dernière signature, date de 1905, qui le prévoit. Et donc tout traducteur qui traduit une œuvre, que ce soit diffusée, que ce soit sous forme de livre, de revue, etc., a droit à un statut d'auteur qui le protège sous deux points de vue. D'abord, il faut que sa signature apparaisse, c'est impératif. Ça, c'est une contrefaçon. Et deuxièmement, il a le droit de défendre son texte. C'est quelque chose de tout à fait important, c'est-à-dire que on ne peut pas, un éditeur ne peut pas faire n'importe quoi avec un texte, contrairement à ce que certains peuvent dire. De la même manière, un chercheur ne peut pas faire non plus n'importe quoi avec la traduction qu'il a en face de lui. Et ça, je pense que vous compléterez, mais il y a une chose qui est très importante. Un chercheur est parfaitement capable de me dire que la traduction d'un terme de Wittgenstein que j'ai choisi n'est pas une traduction autorisée. Il n'est pas capable, en revanche, le plus souvent, de me dire que les nuances de son texte que je rends en français ne sont pas bonnes. Et le gros problème qu'on a dans les revues, quand nous travaillons, c'est-à-dire moi dans mon domaine qui n'est pas vraiment le domaine de la recherche, mais qui est un domaine para-universitaire en général et plutôt grand public, c'est d'expliquer aux chercheurs que le fait qu'ils aient écrit un texte ne leur donne aucune espèce de compétence sur la traduction qui en est faite. Ça, c'est un véritable problème qu'on rencontre tout le temps. Voilà. Et je suis aussi, par ailleurs, capable d'expliquer à un auteur allemand que la traduction officielle, pas d'un texte de Wittgenstein, mais je vais prendre un exemple très concret pour que vous compreniez. In der Welt sein de Heidegger est traduit depuis la traduction de Vezin de Être et Temps par Être au monde. C'est faux, c'est être dans le monde. Et cette traduction a des implications, y compris jusque dans la compréhension politique de Heidegger, qui sont gravissimes. Et donc à chaque fois que je traduis un texte de ce type-là, je traduis être dans le monde parce que c'est la traduction exacte de Heidegger et pas la traduction officielle. Et à chaque fois, je suis obligé de me battre. Et là, c'est à moi de défendre aussi ma traduction en expliquant aux chercheurs que ce n'est pas parce que cette traduction est établie dans l'histoire qu'elle est vraie. C'est même une assez bonne raison pour qu'elle soit fausse. Et j'ai eu parfois, alors là, des problèmes non seulement avec les chercheurs, mais avec les universitaires qui sont autour d'eux et qui me disent, mais non, c'est comme ça qu'on traduit. Ben non, c'est pas comme ça qu'on traduit. Donc le statut de l'auteur, là, il est très traducteur est très précis. C'est un statut d'auteur qui a le droit et même le devoir de défendre ce qu'il a fait.
Moi, je dirais que la question du statut du traducteur en SHS, on peut le prendre du côté pragmatique et du côté symbolique. Et juste pour rebondir par rapport à ce qu'il dit Olivier Manoni, c'est que on est auteur par définition, sauf que le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément, parce qu'on ne vient pas du sphère littéraire. Et pour ma part, quand j'ai commencé à travailler, commencé à travailler en compte-gouttes, hein, donc petit article par-ci, par-là, etc., au cours de ma thèse. Et je me souviens très bien du jour où je disais à quelqu'un, « Ah oui, j'ai vu ce qu'ils font là, à tel élève, c'est génial et tout, c'est vraiment dommage que ça n'existe pas pour les sciences sociales, parce que bon, on n'est pas concerné. » Elle m'a regardé, elle me dit, « Bon, on n'est pas concerné. En fait, vous êtes tout à fait concerné en fait par la TLF. » Et je me suis pas rendu compte auparavant que dans dans le, la parapluie, on va dire, du littéraire, qui est les sciences sociales et les textes universitaires, pourraient être concernés et que, du coup, en fait, moi, je pourrais solliciter la TLF, je pourrais être membre du la TLF. Et là, c'est vrai que, du coup, voilà, soudainement, j'ai retrouvé une communauté. Mais il y a un problème, je pense, juridique pour les traducteurs en sciences sociales, parce qu'on relève, selon le type... alors, comment dire ça ? C'est pas forcément par rapport au type de traduction qu'on fait, c'est plus par rapport au client et à la destination du texte. Donc, ce que vous avez dit par rapport à la diffusion. Parce qu'on peut être amené à traduire des articles, des livres, etc., qui relèvent assez clairement des droits d'auteur et donc de la GSA hein, pour les cotisations. Mais on traduit aussi, pour les chercheurs, de manière directe, des textes qui sont peut-être, éventuellement, possiblement, si je peux... destiné à la publication, mais on ne sait pas quand ou si ça va être le cas. Et aussi beaucoup, comme le fait beaucoup Lucie, des rapports, des demandes de financement, des projets, etc. Et du coup, tout ça, ça relève des prestations de services classiques et du coup, de l'URSSAF. Donc, on est souvent tiraillé entre ces deux statuts d'auteur, de prestataire de services, donc auto-entrepreneur ou autre statut juridique. Ah, ce qui rend en fait toutes les questions juridiques, imposition, cotisation, jonglage entre les différents statuts assez compliqué. Pas seulement pour les traducteurs, mais même pour le monsieur qui travaille au service des impôts et qui regarde, qui fait quoi, qui est là avec son livre et qui cherche. Oui, non, mais non, mais ouais. Ok. Non, mais vraiment très compliqué. Ni la GSA, ni l'URSSAF est vraiment à même de nous répondre à des questions précises par rapport à cette difficulté qui peut surgir du fait qu'en fait on a ces deux fonctions, ces deux casquettes, ces deux statuts en fait. Donc d'un côté, un statut juridique assez compliqué, et aussi donc on vient au vif du sujet, un statut symbolique aussi assez compliqué, parce que il y a, je pense, traditionnellement, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais l'idée que la traduction, c'est la trahison, c'est toujours l'inauthenticité, l'authenticité, c'est jamais aussi bien que l'originalité. Mais je pense qu'on est en train de revenir un peu sur cette position-là pour reconnaître plus l'apport ou l'importance de la recherche, par la traduction comme recherche, avec tout ce qui est fait par le MLA, le Modern Language Association aux États-Unis, Et aussi la manifeste pour la traduction comme recherche, qui est peut-être plus à destination des chercheurs qui traduisent que des traducteurs qui font aussi de la recherche. Mais je pense que ça mitige quand même. Ça nous tire, ça nous éloigne un peu de l'idée de la traduction comme quelque chose qui serait automatique ou mécanique, qui serait simplement une application d'une liste de synonymes, enfin une équivalence parfaite d'une langue à l'autre, voilà, sans rien critiquer tout ça. Donc en fait, je pense que peut-être on revient vers une idée d'une certaine reconnaissance pour le travail des traducteurs universitaires, mais c'est assez compliqué, c'est pas reconnu par tout le monde et parfois il faut se battre, et c'est pour ça qu'on est très très reconnaissant du travail qui a été fait par la TLF dans la revendication de reconnaissance du traducteur comme auteur, et surtout quand on compare à des situations dans d'autres pays, en Angleterre ou aux Pays-Bas ou par exemple où cette reconnaissance de la, comment dire, de la propriété en fait intellectuelle d'une traduction qui reste avec le traducteur, des droits moraux que le traducteur peut avoir sur sa traduction, c'est en Angleterre, on comprend. Enfin, copyright, à ma connaissance, n'a pas un volet qui inclut cette idée de droit moral.
Il y en a quand même, mais c'est un peu moins exprimé.
Donc, en fait, c'est difficile peut-être aussi pour un jeune traducteur de revendiquer cette reconnaissance, surtout quand on... Parce que moi, je travaille vers l'anglais, donc je connais la situation en France et l'importance de la reconnaissance de l'auteur en France, mais il faut que moi, je fasse valoir ça auprès des éditeurs anglo-saxons, qui souvent n'ont pas forcément ça comme référence. Ben, après, quand on leur demande explicitement que de faire mentionner le nom du traducteur, en général, ils sont d'accord. Mais parfois, il faut bien relire le contrat. Et c'est difficile aussi de faire ces revendications de reconnaissance tout en sachant que, et là, peut-être on revient à la question des chercheurs, mais que l'activité de traduction n'est pas reconnue ou qui est quand même assez peu reconnue pour les chercheurs eux-mêmes, en fait. Les chercheurs qui font des traductions et qui font les traductions comme une partie intégrale de leur travail de recherche ne sont pas toujours reconnus pour ces traductions. Ils ne comptent pas forcément vers leur statut scientifique intellectuel, voire on entend aussi parler des traducteurs à qui on conseille de ne pas faire figurer les traductions qu'ils font dans les critères d'évaluation de la recherche, valorisation, etc. Parce que, soi-disant, ce n'est pas suffisamment sérieux, ce n'est pas une activité de recherche, tout ça. Même quand on est angliciste ou on travaille dans la sphère linguistique. Donc c'est quand même assez compliqué. Du coup, c'est compliqué pour les traducteurs de demander cette reconnaissance de la recherche, de la traduction comme un travail de recherche, alors que les chercheurs ont eux-mêmes difficilement accès à cette reconnaissance. Donc voilà. Bon.
Oui, avant juste de vous repasser la parole, il y a deux choses très importantes, qui semblent clés et peut-être qu'on pourra encore creuser. C'est est-ce que il faut affirmer cette séparation des domaines ou pas? Enfin, est-ce que on doit revendiquer en tant que traducteur ou chercheur ou éditeur une sorte de secteur séparé pour les sciences humaines et sociales du point de vue de la traduction ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement que là, ce statut d'auteur soit vraiment remis en cause? Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des procédures qui sont différentes. Il ne faut pas les négliger par une affirmation seulement peut-être théorique. Donc ça semble important. Et puis, le fait que dans tous vos discours, on entend que la traduction, en fait, nous donne un peu les non-dits de la recherche. Ça, je trouve ça intéressant comme idée. Ce qu'on ne veut pas voir, voilà, que la traduction si la traduction n'est pas vue comme un acte de recherche, c'est aussi parce que voilà, elle n'est pas valorisée au sein même du travail du chercheur. Et puis cette question de l'argent et des rapports économiques, ça, je trouve ça très intéressant. Donc peut-être Lucie.
Bah oui. Justement, je pense qu'une des spécificités de la traduction en SHS autour de cette question de statut d'auteur, ça vient de la question de qui finance la traduction, qui la paye. Et c'est tout souvent ça qui détermine le statut d'auteur ou non et la reconnaissance ou non. Parce que par exemple, quand c'est une revue française qui finance une traduction de ses textes pour pouvoir valoriser la recherche française, etc., là, la plupart du temps, le traducteur va être nommé, va être cité, parce qu'il y a quand même il y a un intérêt à rendre visible ce travail d'internationalisation. Quand c'est un chercheur qui a obtenu un financement pour cibler une revue anglo-saxonne, ça se passe très différemment. Je dirais qu'une grande partie de mes traductions ne me sont pas attribuées pour diverses raisons. D'une part, ça peut être que, selon la revue, le texte a plus de chances de passer si on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un texte français, si on a l'impression d'avoir un texte qui se conforme un peu plus, on va dire, au modèle anglo-saxon. Deuxièmement, dans le cadre de jeunes chercheurs qui sont dans ce qu'on pourrait appeler un marché du travail, de la recherche, qui est de plus en plus difficile, le fait de faire valoir une compétence, la capacité de travailler, d'être performant à l'international, c'est-à-dire en langue anglaise, devient de plus en plus important. Donc il y a parfois une réticence aussi à montrer que finalement, ce qui pourrait faire bien sur un CV, ce que je peux comprendre par ailleurs, n'est pas finalement leur travail en soi. Après, il y a aussi cette question de la chaîne qui fait que parfois le texte, c'est ce que Catherine commencé à dire aussi, cette question de, on ne sait pas forcément où le texte va être publié, quand. Quand on fait des dizaines et des dizaines d'articles dans une année, on n'a pas forcément le suivi. Le texte va être soumis, va revenir, va repartir, et les chercheurs, très souvent, réinterviennent derrière. Donc, il y a aussi parfois une raison pour laquelle ce n'est pas forcément bien pour nous d'être cités, parce que si on ne revoit pas les étapes finales, ça peut être problématique. J'ai l'exemple d'une cliente qui avait très régulièrement l'habitude, on va dire, de repasser derrière et de réinsérer très souvent. Elle utilisait beaucoup le terme « ainsi » dans ses textes et avait tendance à repasser derrière tous les endroits où j'avais un petit peu gommé. L'ainsi peut se traduire de manière très, très différente. Et elle l'avait réinséré des « thus » partout, à chaque instant où il y avait eu un ainsi, et donc le texte était revenu avec des commentaires sur l'anglais par rapport à cette question précise. Mais enfin, il y a la question de l'édition, pour les ouvrages, pour le coup, qui est encore une autre question. Là, quand on parle, tu parlais de contrat, mais le truc, c'est que contractuellement, moi, je ne suis jamais apparue dans un contrat pour une traduction que j'ai faite pour une maison d'édition en Angleterre. C'est le chercheur qui a le contrat, c'est le chercheur qui trouve l'argent pour payer la traduction. Et derrière, si je suis mise dans la boucle des conversations, c'est à l'initiative de l'auteur. Et je pense à un exemple où vraiment l'auteur a insisté à chaque étape, chaque fois, le circuit ne pensait même pas à me rajouter dans la boucle. Et c'est elle qui, chaque fois qu'elle répondait, me mettait systématiquement en copie en disant « je mets la traductrice en copie », etc. Et pour l'anecdote, c'est elle qui a insisté pour la taille de la police de mon nom sur la page de titre. Et au deuxième jeu d'épreuve, mon nom avait disparu. Et c'est elle qui a réécrit pour insister qu'on le remette. Mais j'étais complètement absente du processus. Et ça, c'est parce que les maisons d'édition anglo-saxonnes, ils ne considèrent pas ces textes-là comme des traductions parce qu'ils ne payent pas la traduction. Pour eux, ils obtiennent un texte en anglais. C'est aux chercheurs de se débrouiller. Et ça, ça a un impact aussi sur les possibilités de... Après, c'est vraiment aux chercheurs individuels et c'est des espèces de bricolage individuel entre prestataires et commanditaires, entre eux, en fait.
Peut-être Thierry Paulbeau, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question du statut du traducteur ou pas, hein.
Parce que je ne suis pas compétent sur le statut du traducteur, n'étant pas traducteur moi-même, donc j'ai... Enfin, on travaille les traducteurs, mais j'ai rien de plus à ajouter qu'à ce qui a été dit.
Ce que vous dites sur le traducteur invisible, il faudrait peut-être être conscient que c'est aussi dans les revues françaises où des textes sont soumis en français, écrits par des chercheurs étrangers, où il peut y avoir un acte de traduction qui a été avant soumission, et notamment en provenance de pays... disons où les chercheurs souhaitent éditer dans des langues de grande circulation. Je pense à des revues qui sont sur des aires culturelles et où les éditeurs ou bien les rédacteurs de revues ne sont pas forcément conscients qu'il y a eu cette traduction avant, en fait, et où le traducteur n'est pas cité. Donc ça existe et c'est lié à ce dont vous parliez des relations économiques et symboliques globales dans des circulations des textes. Donc on passe aux questions ou au dernier thème.
Questions, oui, il y a des questions. On était déjà sur le dernier thème en même temps. On n'a pas besoin d'y passer, on y est déjà.
Oui.
Non, mais la question du chercheur, de la recherche et de la traduction, c'est vous qui l'avez posée la première.
Une question, mais peut-être c'est simplement aussi une question sur un point que j'ignore. Il y a quelques temps, j'ai vu apparaître sur la plateforme Cairn, donc bien connue d'un certain nombre, la mention « translated by », traduit par, et il me semblait que c'était tout à fait nouveau, et je trouvais ça très positif, parce que justement, d'un point de vue du statut symbolique du traducteur, on pouvait cliquer sur le nom du traducteur et voir toutes les traductions qu'il ou elle avait fait pour des revues françaises. Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus sur ces plateformes-là ? Est-ce que c'est vraiment...
Nous avons avec nous la responsable du programme anglophone.
Alors, bravo.
De Cairn.
D'accord, merci. Je ne dis plus rien.
Delphine Mène, donc.
Bonsoir. Oui, c'est relativement nouveau. Disons que la plateforme est assez récente de toute façon depuis 2014-2015. Effectivement, il a aussi fallu batailler un petit peu en interne pour faire apparaître ces pages une page auteur, mais là aussi, finalement, les revues ou les auteurs ne sont pas toujours d'accord que le traducteur ait une page qui soit exactement le même format qu'un auteur. Ça pose quelques soucis de bien identifier que c'est un traducteur et bien faire des filtres, parce que parfois, du coup, un article peut apparaître avec le traducteur comme auteur, et ça, c'est à ne pas faire, effectivement. Mais oui, l'idée est effectivement de mettre en avant les traducteurs, ce qu'on n'a pas toujours effectivement de la part des revues qui nous envoient des articles traduits, y compris par le programme du CNRS, où voilà, je sollicite pour savoir qui est le traducteur, s'ils veulent le faire apparaître sans obligation. Mais voilà, enfin, la tendance étant plutôt effectivement à reconnaître et afficher. Et on ne cache pas, puisque la plateforme annonce clairement que ce sont des publications de langue française, l'idée est bien de rendre disponibles des articles en anglais, mais tout en mettant en avant que ce sont donc des traductions du français vers l'anglais.
Je crois que ce qui est important d'expliquer aussi aux revues et aux chercheurs, c'est que dans la traduction littéraire, on a mis à peu près 45 ans pour que le statut que nous avons aujourd'hui soit reconnu, pour qu'il y ait des noms qui continuent à se renouveler, heureusement, qui s'imposent. Ce mouvement, il a eu deux conséquences. D'abord, une amélioration évidente. Enfin, quand vous comparez une traduction de n'importe quel texte, que ce soit un roman ou un livre de philosophie, publié aujourd'hui et ce qu'on publiait dans les années 60, ça a été totalement bouleversé parce que, précisément, le métier de traducteur s'est constitué en France et qu'on a réfléchi à nos métiers, qu'on a abouti à des choses qui sont à la fois plus élégante, plus fidèle, plus innovatrice dans le rapport qui existe entre le texte d'origine et la traduction. Tout ça s'est constitué précisément parce qu'il y avait des traducteurs qui étaient nommés, qui avaient une présence symbolique, réelle, une présence économique aussi reconnue, qui ont pu travailler sur leur propre métier. Un scientifique a tout intérêt à avoir des traductions de bon niveau et donc à savoir, un, à qui s'adresser, deux, à savoir que le professionnel à qui s'adresse est reconnu, et trois, à aider à sa reconnaissance autant que la sienne. C'est pas facile. Moi, il m'est arrivé une fois un truc complètement fou. J'ai traduit un texte, un livre pour un auteur qui m'a dit « mais c'est impeccable, j'ai rien à faire ». C'est paru un peu après, sans que je voie les épreuves ni la couverture, dans une presse universitaire de province. Et j'ai vu, dans la quatrième de couverture, c'était traduit par Olivier Manoni et revu par l'auteur, qui effectivement avait relu le texte, mais qui n'avait pas changé un mot, comme si l'apport moral du scientifique était absolument indispensable pour valider sa propre traduction, même s'il n'y avait pas touché. Bon, ce n'est pas des choses saines. Le traducteur livre un produit qui, si c'est un bon traducteur, évidemment, est perfectible dans la discussion avec l'auteur, la discussion avec l'éditeur, mais il est extrêmement important qu'on ait des professionnels qu'on puisse reconnaître. Et cette reconnaissance ne peut que profiter à la science, aux chercheurs et à l'édition scientifique.
Je crois que c'est très intéressant, enfin, cette dimension finalement de voir comment des outils numériques et ce qui se développe par des plateformes d'édition numérique, par exemple, va aussi aboutir à transformer le regard. Parce que moi, j'ai envie de dire, quel est le problème, tant qu'on identifie effectivement traducteur, auteur, que après dans l'arborescence, ça apparaisse comme étant de même niveau, c'est tout à fait logique. Quoi. Et c'est même bien, puisque si sur une même page, on peut voir et les textes écrits par une personne et les textes traduits par cette personne, ça donne une sorte de panorama plus hétérogène mais beaucoup plus riche du type de travail que cette personne livre, quoi. Et finalement, et c'est vrai qu'on a parfois des auteurs qui vont écrire des textes sur leur champ de recherche et qui vont en traduire sur des champs de recherche pas forcément très proches, et donc ça va montrer aussi, ça va reproduire un instantané de leur champ d'intérêt beaucoup plus large que ce que la page de leur seul travaux personnels au sens de ce qu'ils ont écrit en première instance livrait. Moi, une question que j'avais envie de, enfin la manière dont j'avais envie de poser la question, c'était aussi la question à l'articulation entre le statut et le problème de la recherche dans la traduction. C'était le problème du rôle du collectif ou du collaboratif. À la fois au niveau du statut, ça découlait de l'idée d'une forme de mobilisation. On a parlé des associations. On peut parler d'un problème de la lutte sociale pour faire reconnaître des statuts en matière de traduction comme autre chose, et aussi sur le plan de la recherche, c'est-à-dire la difficulté ou la tendance qu'on aurait à ne pas accepter facilement que la recherche tout au long du processus qu'elle implique, soit un travail non individuel, disons-le comme ça, soit collectif, soit au moins collaboratif. Et à la limite, même le problème de la traduction automatique, du coup, aboutit à poser cette question, puisqu'on peut considérer les outils de traitement automatique des langues, les outils de traduction automatique, comme des machines qui sont elles-mêmes alimentées par des entreprises concertées entre plusieurs chercheurs pour nourrir le moteur, en quelque sorte, soit par des travaux d'indexation, par des travaux de sémantisation ou de voilà, tout ce travail de traitement n'est pas en fait automatique du tout. Ce qu'on appelle traitement automatique du langage est un traitement qui est automatique après avoir été manuel, finalement. Je ne sais pas si vous me démentirez. Et du coup, on verrait là une espèce de machine qui fonctionne grâce à l'équipe qui la porte.
Et au pillage qu'elle fait des traducteurs, il faut aussi le dire.
Pillage en quel sens?
Je vais prendre un exemple très concret. Lingui, qui est un des moteurs de traduction, qui d'ailleurs ne fonctionne pas du tout mal, puise dans toutes les traductions qui sont publiées, pique ce qu'il y a et publie sans aucune espèce d'autorisation. DeepL, dont on va peut-être reparler tout à l'heure, fonctionne sur un principe analogue. C'est du pillage, c'est du vol, pur et simple. Tout le monde le sait.
Alors là, on est sur la notion de droit voisin ou de choses comme ça, non, qui a beaucoup alimenté la discussion.
On est sur la notion, oui, d'utilisation de textes sans l'accord de leur auteur pour faire des outils qui, en plus, risquent de détruire leur travail. Bon, enfin, on va en reparler tout à l'heure.
Oui, vu l'heure, il faut en parler. Alors, la question, enfin, ma question déjà, Thierry Poibeau, dans cette dimension, est-ce que vous auriez cette idée que En tant qu'effort concerté, la traduction automatique nous donne une piste de réflexion sur le caractère collaboratif de la recherche ou ça n'apporte rien de particulier?
Honnêtement, pas tellement. Enfin, il y a le problème. Il y a Lingui et DeepL qui sont en fait la même entreprise mais qui font des choses différentes. C'est-à-dire que DeepL fait de la traduction automatique et Lingui donne accès à des textes bilingues, enfin des concordanciers, enfin des espèces concordanciers, des choses comme ça, qui posent un problème de droit et de texte. Après, il y a un problème, il y a le problème inverse en informatique, c'est que les gens ont besoin d'avoir accès à des grandes masses de données, qui soient obtenues. Après, il y a le problème quand c'est publié sur Internet, mais effectivement, tous les textes sont publiés sur Internet, il y a un auteur, etc. Mais on ne peut plus rien faire si on travaille sur des milliards de mots, donc on ne peut pas aller chercher les auteurs et on ne sait même pas qui est l'auteur. Donc il y a des fois pour les projets, les gens qui ont écrit à des entreprises pour dire. On a pris votre site web, pour faire des choses qu'on ne va pas republier directement derrière, mais il n'y a pas de réponse d'entreprise qui s'en fiche ou qui ne comprennent même pas la question quand les gens essayent de récupérer les droits. Après, évidemment, c'est différent de republier, comme Lingui le fait, des données bilingues qui sont avec qui sortent de textes, qui sont identifiés, etc., et dont les auteurs ne sont pas cités, etc. Mais votre question est un peu compliquée, il n'y a pas vraiment de notion d'auteur, mais c'est vrai que en fait, les systèmes travaillent sur des milliards de mots, sur l'anglais et le français, enfin, sur une quinzaine, une vingtaine de langues, on est sur des milliards de mots, donc c'est plus, et c'est la quantité qui compte, c'est-à-dire qu'on est, alors c'est peut-être une horreur pour les linguistes, ça a longtemps été une horreur, mais c'est vrai que c'est encore des histoires de fréquence qui jouent, et donc plus il y a de données, mieux ça fonctionne à un certain niveau. Après, c'est clair que c'est pas, quand on va voir sur les expressions figées, il y a des choses très simples qui sont encore mal traduites par des traducteurs qui sont très efficaces. Enfin, ils sont très efficaces par ailleurs. Parce que je veux dire, c'est que les meilleurs traducteurs, les mieux évalués, DeepL ou Google, enfin les grosses boîtes, qui exploitent. Google exploite évidemment toute sa masse de données qu'il y a derrière. Donc, eux, ils ont vraiment les milliards de mots en interne et les machines qu'il faut pour les traiter. On voit que ce sont des choses. Donc, ça traduit bien, ça fait une traduction littérale d'articles de journaux, des choses comme ça. Donc, c'est assez efficace pour quelqu'un qui veut prendre connaissance d'un article écrit en chinois. Si on ne parle pas un mot de chinois, c'est assez efficace de ce point de vue-là. Il y a des faux sens ou des contresens, mais c'est pas. Ça va être tragique pour un traducteur littéraire, mais ce n'est pas tragique si on veut juste prendre connaissance d'un texte. En général, c'est des choses assez mineures et ça permet de bien comprendre quand même ce qu'il y a dans le texte. Donc les gens commencent à ne plus être complètement naïfs par rapport au traducteur. On sait que ce n'est pas une traduction exacte ou on sait que c'est quelque chose fait automatiquement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'est efficace dans ce sens-là. Après, oui, ce que je voulais dire, c'est que ça fait encore des erreurs assez basiques sur des choses, tout ce qui est expression figée, donc tout ce qui est plus d'un certain nombre de 4-5 mots ou des. Je ne sais plus, il y avait des exemples très simples qui étaient mal traduits, c'était un peu étonnant. Je crois que c'est ce moucher. Alors je ne sais pas pourquoi moucher est mal traduit, mais il y a un problème avec une ambiguïté. C'est ça qui est aussi fascinant dans la langue, c'est que on n'a même pas conscience d'ambiguïté et des problèmes de sens que ça peut poser. Et l'ordinateur est intéressant quand il fait des erreurs, au sens où il pointe le doigt vers des mots qui nous semblent évidents et qui ne sont visiblement pas aussi évidents que ça à traduire. Mais après, c'est vraiment il y a des entreprises qui sont derrière ou des groupes de recherche, mais le travail de mise au point d'un système, c'est de l'entraînement, c'est de l'apprentissage artificiel. Il n'y a plus de règles mises au point à la main. Et donc, c'est plus vraiment un travail, c'est un travail collectif au sens où c'est les informaticiens qui mettent au point des systèmes. Il y a éventuellement quelques linguistes, mais c'est vraiment un travail collectif de ce sens-là, mais qui n'a rien à voir du tout avec un travail de traduction ou de traducteur. Et je pense que on peut essayer de faire un parallèle si on veut faire des choses un peu acrobatiques, mais je pense que c'est pas vraiment. C'est deux métiers quand même vraiment différents de ce point de vue-là.
Juste puisqu'on est dans l'informatique, j'ai testé DeepL. Moi, je suis allé. Donc DeepL, c'est l'ordinateur, enfin c'est le moteur de traduction le plus perfectionné qu'on ait à ce jour. Il fonctionne, dites-moi si je me trompe, avec une partie d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il apprend au fur et à mesure qu'on s'en sert, si j'ai bien compris. Et il est réputé. C'est avec lui, je crois, qu'on a traduit ce livre chinois récemment. Et ces promoteurs qui sont de très bons commerciaux en font une publicité absolument extraordinaire. Donc je l'ai testé sur un roman que j'étais en train de traduire pour voir ce que ça donnait. C'était très très intéressant. Il y avait peu de fautes. Il m'avait juste mis un bateau en laisse au lieu alors qu'il était simplement amarré. Mais on peut, c'est pas très grave. Mais la traduction était absolument, totalement inutilisable. Pour une raison très très simple, et je pense que mes collègues qui travaillent vraiment en sciences humaines seront d'accord avec moi, même si c'est plus spécifique chez vous. Quand on traduit un texte, c'est, en fait, c'est, j'ai vraiment compris à ce moment-là exactement en quoi consistait mon métier, c'est DeepL qui m'a révélé ça, Dieu soit loué. Quand on traduit un texte, en fait, on ne traduit pas des mots, absolument pas. Bon, c'est une erreur mais radicale de croire qu'on traduit des mots. On traduit des mots, ce qu'il y a derrière, et les mots qui n'y sont pas. La première partie, l'ordinateur est capable de comprendre, il est capable de traiter ça. Tout le reste, il en est absolument incapable. C'est-à-dire qu'en traduction littéraire, en traduction de roman en particulier, il est absolument incapable de comprendre une nuance. Donc il va dire, et je vous donne un exemple très précis, il y a le livre en question, je l'ai testé sur un livre qui s'appelle « À ce point de folie » qui raconte l'histoire du radeau de la Méduse. Et le capitaine, qui est un imbécile fini, comme on le sait, enfin, il a très mal fini d'ailleurs, dit à un moment une phrase en allemand qui est... qui veut dire « Ne dites pas n'importe quoi, c'est mon titre de capitaine qui est en jeu. » Et DeepL traduit « Il est question de mon titre de capitaine. » C'est-à-dire que cette phrase, la différence est absolument infime entre les deux, mais elle perd tout son sens. Le sens réel du terme sur deux pages, c'était exactement comme ça. Et quand vous faites ça en sciences humaines, vous aurez exactement le même résultat. Je peux vous donner un autre exemple, ça je ne l'ai pas fait avec DeepL, mais c'est un exemple très, très récent que j'ai eu avec un auteur de philosophie allemand qui est d'origine coréenne, qui s'appelle Byung-Chul Han, et qui est un allemand extrêmement... un allemand d'étranger, donc un allemand extraordinairement travaillé et qui joue sur tout. Et le titre de son texte, c'est Gute Unterhaltung. Et l'éditeur m'avait fait mon contrat en me disant le bon divertissement. Je les ai appelés tout de suite en disant attention, ça veut dire amusez-vous bien. Donc vous n'êtes plus dans un bouquin de philo, vous êtes sur autre chose. Et effectivement, à la fin Unterhaltung en allemand, vous avez en plus sich unterhalten, qui est la discussion. Et donc il jouait à la fois sur le divertissement, sur l'idée qu'on pouvait sur l'amusement. Et sur Unterhalten, donc sur discuter, et en plus sur le fait que Unterhalten, c'est tenir quelque chose par-dessous. Il y avait ces quatre sens. Si vous mettez ça dans un ordinateur en sciences humaines, il va vous donner un sens, il va chercher un sens, et vous aurez un livre qui était comme le titre qu'on m'a proposé, parce qu'on avait fait ça de manière mécanique, quoi, comme un mauvais traducteur, ce qui est normal pour quelqu'un qui n'est pas du métier, mais il va forcément travailler là-dedans. Voilà. Et je pense que j'ai pas encore testé DeepL sur un livre de philo, mais je pense que je vais le faire un jour ou l'autre et je m'amuserai beaucoup.
Juste avant de te laisser la parole, je pense que effectivement, si on teste n'importe quel traducteur automatique sur un texte, déjà sur un texte normal, il faut intervenir parce que c'est pas une traduction exacte. Aucun concepteur de système automatique va dire qu'il fait une traduction exacte. Enfin, une traduction qu'on peut reprendre sans aucune sans aucune modification. J'ai fait hier un cours pour les étudiants d'initiation au traitement automatique des langues. La première chose que je dis, et que j'insiste tout le temps, c'est que n'importe quel système, même sur la tâche la plus simple, fait des erreurs. Parce que la langue, je ne vais pas vous faire un cours de TAL, mais même pour des coups, la notion de mot, c'est une notion linguistique, ce n'est pas une notion de... C'est pas une notion informatique. Un mot, il n'y a pas, c'est entre des séparateurs, mais l'apostrophe dans aujourd'hui n'est pas un séparateur, etc. Donc, pour plein de raisons, il y a des notions qu'on a en linguistique, et en général, en TAL, on a d'autres notions, parce que les notions linguistiques ne sont pas des notions formelles qu'on peut mettre dans un ordinateur directement. Donc, aucun concepteur va dire qu'il fait une traduction exacte. Et si vous mettez de la philo dans DeepL, je pense que DeepL, enfin, les concepteurs de DeepL eux-mêmes, vous diront qu'effectivement, c'est, à la limite, ce n'est pas fait pour ça. Donc, c'est assez logique. Et effectivement, le système. S'il y a un double sens dans un... Alors il peut se trouver qu'une traduction mot à mot permet de restituer le double sens. Le malheur, enfin, ou le bonheur et le malheur de la chose, c'est qu'une traduction mot à mot marche pas si mal que ça pour avoir une idée du texte. Mais juste pour avoir une idée du texte. Alors, ce qui n'est pas ce que vous faites. Enfin, ce n'est pas le travail d'un traducteur. Mais après, s'il y a un double sens, s'il y a des jeux de mots, s'il y a des choses comme ça, bon, là, je pense que c'est évident. Enfin, tout le monde vous dira, les concepteurs de TAL, les premiers, qui sont sûrement peut-être les meilleurs défenseurs de leur domaine, qui vont... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne vont pas dire qu'ils peuvent traduire tout et n'importe quoi. Effectivement, ça ne marche pas. C'est fait, à la limite, ce n'est pas fait pour ça. Donc ça,
je parle de DeepL parce que les promoteurs, donc le service marketing de DeepL, a plutôt tendance à dire le contraire de ce que vous venez de dire.
Le service marketing peut peut-être faire autre chose que les chercheurs. Oui,
je pense que ça soulève la question, surtout par rapport à ce qu'on a pu dire sur l'idée qu'il y a un appel... le marché pour une traduction automatique des revues en France, ça pose la question de où se situent les sciences humaines et sociales entre les articles journalistiques qui peuvent être traduits mot à mot pour avoir le sens de base et la littérature et la poésie. Et je pense que assez clairement, les sciences sociales se situent quelque part au milieu, voire moi je dirais plutôt tendance vers la littéraire, simplement parce que ils sont profondément ancrés dans un contexte culturel, dans les champs et les débats scientifiques qui sont très spécifiques. Et si on néglige ces débats, les enjeux de vocabulaire qui peuvent positionner l'auteur dans un champ ou dans un débat dans lequel il n'avait pas conscience qu'il devait positionner dans le champ scientifique de destination, par exemple, on peut finir avec des conséquences vraiment dramatiques pour la réception de l'œuvre. Donc, je pense que, comme vous dites dans votre livre, que ces techniques ne sont pas destinées à traduire la poésie, je pense que c'est, voilà, en sciences humaines et sociales, ça serait vraiment très, très problématique d'avoir recours à ce genre d'instrument, mais on verra peut-être des résultats. Mais...
Il y avait deux personnes qui avaient demandé la parole, on peut-être leur donner, puis après on vous redonne à vous. Donc, il y avait Delphine et puis mademoiselle là-haut.
Oui, je voulais revenir sur justement cette utilisation de DeepL, entre autres, mais certainement d'autres outils. Moi, je suis plutôt confrontée au quotidien à des revues qui ont la nécessité de fournir des résumés et des titres d'articles en anglais. Pour les secrétaires de rédaction, c'est compliqué d'aller à la pêche à l'information. Et effectivement, tantôt, des revues vont faire appel à des traducteurs et vont reconnaître leur travail. Tantôt vont se dire, il y a ces outils qui existent et très clairement vont me dire, j'ai tout de suite la solution, c'est parfait. Donc pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la valorisation du travail du traducteur, c'est vrai que la prise de conscience commence aussi par les chercheurs ou le milieu des publications scientifiques aussi, de se dire quel est pour eux l'intérêt de faire appel à une bonne traduction, ne serait-ce que pour leur résumé. Pour l'anecdote, une revue à qui je demandais le titre, enfin, il manquait un titre qui était le bon et le bien, me répond tout de suite via DeepL, The Good and the Good. Je dis, est-ce que vous pouvez demander à votre rédacteur en chef s'il valide ou la traduction voilà, ce rédacteur en chef ayant vécu aux États-Unis a pu me transmettre son appréciation. Et, voilà. Mais effectivement, par rapport... De notre discussion, on se dit que ça ne peut pas s'appliquer aux sciences humaines et sociales ou à la poésie. Toujours est-il qu'effectivement, cet appel d'offres est lancé suite à des réflexions du ministère de la Recherche avec des revues, avec le CNRS, avec des chercheurs qui veulent aller vers cette... du moins l'expérimenter. Donc, plutôt que d'être dans une position de se dire ça n'arrivera jamais ou on ne peut pas le faire... ma question qui s'adressait plutôt à vous, Monsieur Poibot, c'était à l'état actuel de ce que vous connaissez de ces outils. Est-ce que vous imaginez effectivement soit un apprentissage ou grâce à des corpus importants ou quelle dynamique vous pouvez voir pour un usage vers les sciences sociales? A priori, c'est ce vers quoi on tend, c'est ce qu'on demande aux revues du moins.
Oui, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'étais sollicité pour être dans le comité de sélection. Et j'ai refusé, enfin je ne pouvais pas, pour des raisons pratiques, pas pour des raisons politiques, mais pratiques. Mais en fait, enfin, je pense que la question, enfin pas la vôtre, mais la question en général est mal posée, parce qu'on a l'air de penser comme si c'était traduction automatique ou pas du tout. Et évidemment, ce que moi je dis, c'est que ce n'est pas traduction automatique pure et dure, parce que c'est, ou quand on, je crois que la pub, c'était, enfin le comité de presse que j'ai oublié, mais c'est un livre de 500 pages qui avait été corrigé en une semaine ou en quelques jours. Je pense que, enfin il faut être raisonnable, si c'est un roman... Voir si le bottin, si se traduit le bottin, ça dépend aussi de ce qu'on traduit. Comme il y a des choses qu'on peut traduire, enfin qu'on peut peut-être traduire automatiquement et puis se servir de résultat pour faire quelque chose après. Je pense que c'est l'horreur pour un traducteur littéraire à l'aérospatial, enfin dans plein d'entreprises, ils ont des noms de pièces, enfin ils ont des mots de traduction parce qu'ils ont des choses qui doivent être traduites automatiquement, enfin qui doivent être traduites de la même manière. Après, on peut peut-être discuter au bout d'un moment, est-ce que ça veut dire la même chose? Il y a tout un travail en terminologie sur le fait que les termes ne devraient pas être ambigus. Alors qu'en fait, je suis convaincu qu'ils sont presque aussi ambigus que le reste, parce qu'en fait, c'est un domaine technique, mais en fait, c'est toujours la langue. Donc, les mots qu'on emploie, ils désignent une notion, mais en fait, il y a toujours de la métonymie, des choses, c'est soit l'objet, soit la fonction qu'il occupe, hein, etc. Et on retrouve la même chose dans les textes techniques. Donc, mais pour revenir à la question sur la traduction automatique, ce que veulent faire. Enfin, moi, je suis en contact avec un éditeur qui veut expérimenter, qui veut voir ce que c'est. Donc, c'est pas dire on va virer les traducteurs pour en passer par une traduction automatique, mais on va voir déjà ce qu'on peut faire. Les traducteurs eux-mêmes me disent, parce que j'avais fait une annonce de stage là-dessus, et j'avais une réponse un peu vindicative en disant, mais c'est encore un éditeur qui va embaucher des stagiaires pour ne pas payer des traducteurs, et qui va faire un travail. Non, c'était un vrai stage. En plus, ils n'ont pas pris un stagiaire, ils ont embauché quelqu'un pour vraiment expérimenter la chose. Donc, ce n'est pas pour sous-payer. Évidemment, tout le monde regarde la valeur économique des choses. Il faut que ce soit rentable à un certain niveau. Enfin, ils ont peut-être pas immédiatement, mais ils ont un projet pour que ce soit rentable à un certain moment. Mais aussi, l'idée, c'est dans les maisons de traduction qui ne vont pas faire traduire tous leurs fonds en français vers l'anglais, c'est aussi exploiter essayer de voir ce qu'on peut faire avec la traduction automatique, voir si on ne peut pas faire quelque chose alors sur les résumés, sur les mots-clés, sur des choses comme ça, et voir si c'est efficace ou si c'est pas efficace. Il y a des maisons aussi qui ont une image de marque, donc elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et il y a, enfin, à partir du moment où il y a c'est ce que j'avais répondu à la personne qui m'avait interpellé en ligne, à partir du moment où il y a des entreprises qui disent on a traduit automatiquement, alors je ne sais plus si c'était du chinois ou de l'anglais, mais enfin, peu importe, un livre automatiquement, c'est clair que les éditeurs ne peuvent pas dire non, on ne fait rien et ça ne marche pas. Donc ils regardent ce qui se passe, ils regardent quelle est la qualité de ce qu'on obtient. Est-ce que le traducteur peut servir de ça pour comme base ou pas? C'est une question. Enfin, c'est clair que moi aussi, pour traduire, on est tous là, on essaye. On se dit, bon, j'ai une traduction à faire, je dois le faire vers l'anglais. Donc, je vais passer ça dans DeepL et puis ça me fera une base. Et puis, en fait, on voit que c'est souvent, effectivement, c'est anglais ou on le fait vers le français et c'est français, mais c'est pas ce qu'on aurait écrit en français. Et du coup, effectivement, les idées sont plus ou moins là, mais on réécrit tout parce que c'est pas le style, c'est pas ce qu'on veut écrire et c'est pas comment on veut faire. Et c'est vraiment des questions ouvertes. Mais honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, la question, c'est après la question de la réécriture. Quel travail de réécriture qu'on fait? Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, je travaille mes propres textes. Et après, il y a le travail de l'auteur. Enfin, je ne sais pas si je suis traducteur-auteur, parce qu'en fait, je reformule, mais un traducteur fait aussi la même chose, mais peut-être moins, parce que je m'autorise à redire ou à modifier mon texte, parce que je suis l'auteur et je ne suis plus obligatoirement satisfait de ce que. Où je me dis, tiens, je pourrais le dire autrement et ce serait mieux comme ça. Alors que le traducteur est quand même censé respecter le texte, il ne peut pas avoir cette liberté que j'ai en tant qu'auteur. Mais est-ce que c'est plus efficace pour la traduction purement technique? Si on est chez je ne sais pas si on peut citer des boîtes, mais l'aérospatiale, une boîte comme ça qui a des gros besoins de traduction, qui traduit beaucoup, est-ce que c'est plus efficace d'avoir une mémoire de traduction ou d'avoir un traducteur automatique? C'est une question et moi, je ne suis pas convaincu que la traduction, enfin, je ne sais pas si je tire contre mon camp, mais je ne sais pas si la traduction automatique est plus efficace. C'est-à-dire que si on veut, il y a des mots qui doivent être pris tels quels et c'est dans le cahier des charges. Donc là, ça passe par des agences, j'imagine. Et de toute façon, le traducteur n'a pas son mot à dire parce que c'est comme ça. Et s'il ne fait pas comme ça, ils vont aller voir un autre traducteur. Donc à partir du moment où le cahier des charges dit ça, ce qui est bien ou pas bien, mais peu importe, mais c'est dans le cahier des charges, après, la meilleure traduction peut permettre justement d'avoir des dictionnaires bilingues ou qui peuvent dépendre du contexte. Et en même temps, c'est pas bestial. C'est pas parce que j'ai un mot que je vais le traduire comme ça. Je peux quand même avoir le contexte, différentes choses qui sont prises en compte. Et est-ce que dans ce cadre-là, une mémoire de traduction est plus efficace ou moins efficace qu'un traducteur automatique? Moi, j'en sais rien. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut expérimenter et qui est intéressante.
Bien, donc il faudra expérimenter. Il nous reste 5 minutes. Donc, mademoiselle, vous aviez demandé la parole.
Donc,
et après, il faudra qu'on conclue peut-être. Hein,
ça devrait être assez rapide. Je ne suis pas du tout dans le domaine de la traduction. J'ai à peine 19 ans, donc je n'ai que mon point de vue. J'ai un peu de mal à saisir du coup le conflit qu'il y a entre les outils de traduction, la traduction automatique, tout ça, par rapport au métier de traducteur. Parce que donc, vous parlez de Lingui, que j'utilise, mais parce que ça me permet, en fait, avec ces petits extraits, d'avoir un contexte et donc de mieux comprendre pourquoi j'utiliserai tel mot plutôt qu'un autre. Et vous parliez donc de vol, que ça serait une forme de vol. Mais je me disais, dans un sens, ça reste des outils. Donc, à partir du moment où on s'en sert que comme des outils dans des contextes comme le mien, juste pour comprendre un petit peu, saisir des nuances, et pas pour carrément plagier du travail, est-ce que ça reste correct?
Mais de votre part, bien sûr. Ce problème, c'est Lingui, c'est tout, qui se sert. Voilà. Si quelqu'un va voler au marché des fruits et des légumes et vous sert un repas délicieux, vous mangez le repas délicieux, vous n'y êtes pour rien. Par contre, il a effectivement piqué au marché. Ça, vous n'y êtes pour rien non plus. C'est pas tellement Lingui, moi, qui me dérange. Le problème, il est de fond, il est avec ce qu'est la traduction automatique. Moi, il y a un courant, je voudrais... Juste pour finir, pas pour ce qui me concerne, essayer de synthétiser un tout petit peu. Il y a quand même un courant que je vois dans la traduction de plus en plus en sciences humaines très universitaires. On commence par demander aux chercheurs d'écrire dans une langue qui n'est pas la leur. Et en tant que traducteur, je peux vous dire que même quelqu'un qui parle parfaitement une langue qui est autre, déjà se limite ses moyens. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je peux répondre un peu juste à votre question sur le point technique.
C'est-à-dire très vite.
J'ai très, 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 très longuement travaillé avec des collègues qui sont traducteurs techniques, qui m'ont donné une réponse très précise. Ces traducteurs automatiques marchent très bien pour nous si nous écrivons les textes français pour eux. Voilà. C'est-à-dire que quand vous travaillez pour l'ordinateur, vous réfléchissez comme l'ordinateur, l'ordinateur est capable de vous traduire. C'est-à-dire qu'en fait, on change le langage pour arriver à ce que la machine le comprenne. Et donc, on aliène ses propres moyens d'expression pour la machine. Et c'est là où je viens, et je conclue là-dessus, simplement le risque monstrueux que vous avez en automatisant la traduction des sciences humaines, c'est d'arriver à l'idée simplement que les sciences humaines sont une accumulation de concepts. Or, c'est une erreur qu'on a faite avec Freud, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, en pensant que cet homme avait mis finalement des concepts au point et qu'il suffisait de les mettre bout à bout pour arriver à quelque chose. Un chercheur en sciences humaines, c'est quelqu'un qui fait de la rhétorique, qui va tenter de convaincre, qui va tenter de réfuter des thèses, et ça, aucun appareil ne peut le faire.
Merci. Dernier mot.
Oui, je voulais juste, pour remettre le doigt vraiment du point de vue concret à où se situe ce conflit, il est aussi dans le fait que si on teste l'application des traitements automatiques de la langue, de ce type d'outils basés sur le TAL, c'est aussi pour réduire les coûts. Enfin, c'est la volonté du ministère est là-dedans, ce qui veut dire que c'est aussi le conflit, il est là parce que à terme, l'idée ce serait qu'il y ait essentiellement un travail de post-édition qui se ferait, ce qui change radicalement notre métier. Donc c'est aussi pour ça qu'on se sent interpellé par la chose. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire partie de la conversation et effectivement tester ces outils, voir de manière scientifique où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça ne fonctionne pas, et plutôt que de dire non, ça ne fonctionnera pas, regardez pourquoi ça ne fonctionne pas et où ça ne fonctionne pas. Personnellement, je suis complètement sceptique, mais je pense qu'il faut aussi avoir une vraie conversation et un vrai travail autour de ça, surtout s'il y a des volontés institutionnelles de partir dans ce sens-là. Mais c'est ça l'idée, parce que du coup,
Par exemple, si on nous demande de post-éditer un texte qui est censé et qu'on est payé, par exemple, une demi-journée de travail, on a une demi-journée de travail pour rendre ce texte. On n'a pas les deux semaines qu'on passerait sur l'article à lire la bibliographie, à réfléchir autour de la question, à vraiment rentrer dans le texte. Et c'est un peu là que se situe, je dirais, notre réticence à nous, en tout cas.
On a bien compris que les enjeux économiques et symboliques sont absolument imbriqués. On va clore le débat ici. Vous voyez qu'on a juste abordé certains enjeux comme la recherche dans la traduction ou la traduction dans la recherche. Je vous engage à venir au séminaire ou aux autres débats où on approfondit cette question de la valeur épistémologique de la traduction, par exemple. Il y a aussi un atelier sur plus spécifiquement écrire et publier des traductions en anglais, puisque on a vu que c'était aussi une partie importante, mais ce n'est pas la seule de la question de la traduction dans la recherche. Merci beaucoup à nos intervenants et merci à vous d'avoir été si actifs dans ce débat.
Et puis, si je peux juste ajouter, si ça vous intéresse, si vous êtes traducteur spécialisé en sciences sociales, donc je fais mon petit promo, mais voilà, n'hésitez pas, on a des petites flyers là, avec l'adresse email et le site web de l'association. On est toujours à la recherche des professionnels spécialisés, compétents, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. On n'est pas des machines, mais quand même, on a terminé pile à l'heure.